Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, hein, ravi d'être avec vous. Hein. Comme chaque lundi soir, 19h, 20h30, l'actu sportive sur Mon Paris Sport. Alors ce soir, on va monter et enfourcher notre bicyclette avec notre invité. Donc c'est Christian Auro, le président du comité départemental de cyclisme de Paris. Christian, bonsoir.
Bonsoir Philippe.
Voilà, et puis manager du Paris Cycliste Olympique, c'est ça hein.
Tout à fait.
Voilà, donc double casquette, donc je suppose une vie très largement tournée sur le vélo.
Ouais, en effet, on ne compte pas ses heures.
Très
et
bien.
Et ses tours de roue.
Voilà, alors naturellement, on commentera aussi l'actu basket-volley et on fera un point sur Paris-Dakar avec Valentin. Et puis la tradition oblige, on va commencer par l'actu du ballon rond. Est-ce que vous aimez le foot?
Ah ouais, ouais.
En général, dans le vélo, on aime bien le foot. Hein.
Mais supporter de l'OM, je suis désolé.
Ah bon, eh ben c'est pas grave. Bonsoir LG, comment tu vas?
Ça va, super.
Ça va ouais, bon, super. Bah ça y est, on est à mi-parcours. Hein. On a fini donc la phase aller pour le championnat. Paris Saint-Germain, ce qu'on appelait champion d'automne, même si c'est en hiver. Hein. Mais finalement, avec 3 points d'avance sur Lens, donc ça veut dire qu'il y aura peut-être match pour la deuxième partie de championnat.
Maintenant, je pense que toutes les questions se posent. Hein. Il n'y a aucune place définitive. Voilà, oui. Que ce soit en bas de tableau, Strasbourg qui ont pris 4 points en 2 matchs. Voilà, Strasbourg qui remonte un peu plus la pente. Marseille qui sont encore là. Lens qui consolide un peu leur place de dauphin.
Oui.
PSG qui sont dans le dur depuis 2-3 matchs.
Oui. On ne s'y attendait pas quand même. Hein, parce que finalement, ça veut dire que Paris, ils n'ont pas bien rattaqué l'après-mondial. Hein, battu à Lens, battu à Rennes.
Honnêtement, en tout cas moi, personnellement, je m'y attendais un peu.
Ah bon un peu.
Bah, Philippe, je te disais, juste avant la Coupe du Monde, je te disais, oui, c'est bien beau. Là, on voit un bon PSG, Neymar qui est en forme, Messi qui est en forme, Kylian Mbappé, etc. Voilà, on voit bien l'équipe du PSG en forme. Mais parce qu'il y avait une Coupe du Monde aussi derrière.
Oui.
Donc, il y en a beaucoup qui se préparaient pour la Coupe du Monde. Tu vois, et j'avais peur que ça baisse en intensité après la Coupe du Monde.
Ouais, et bah c'est le cas.
Et bah c'est le cas. Ouais, pile. On a vu le match désastreux de Neymar hier. Messi qui a été invisible aussi. On voit, franchement. Et franchement, à peu près un mois de la double confrontation contre le Bayern de Munich, moi, ça me fait peur.
Oui, il y a quoi être inquiet.
Ah ben bah, oui, je pense
d'accord.
Que là, oui.
D'accord. Bon, tu vas t'accompagner ce soir par Il fait ses grands débuts à la radio.
Oui, bonsoir. Merci de m'accueillir. Antoine.
Voilà, Antoine. Pareil, avec même opinion qu'Aladji. Ça te fait peur, ce Paris Saint-Germain, qui est champion quand même d'automne, mais on s'attendait à ce qu'il le soit un peu plus facilement.
Bah, l'année dernière, au même stade avec Pochettino, on avait 13 points d'avance. Donc là, on est qu'à 3 de Lens. Mm-hmm. Deux matchs de suite compliqués, même contre le SCO, on a gagné, mais c'était pas glorieux. Une défaite encore, une deuxième consécutive à l'extérieur. Donc là, on va avoir la pause quand même. On va aller à El Nasser, donc contre Ronaldo. Ça va peut-être faire du bien. Mais bon, il y a quand même de quoi s'inquiéter.
Ouais. Est-ce que justement, c'est utile ce genre de déplacement? Alors, je sais bien qu'il n'y a pas de gros rendez-vous. Il y a un match de Coupe de France qui est programmé lundi prochain, hein, bon, qui ne devrait pas poser de problème. Mais bon, voilà. Est-ce que ce n'est pas un match dont on aurait pu se passer?
Bah, c'est un match dont je pense que les supporters peuvent se passer.
Oui.
Après, est-ce que le club peut se passer de... Bah voilà, parce que ça rapporte énormément de sous.
Oui.
C'est bien pour ça, c'est pour ça que je dis, est-ce que le club peut s'en priver? Je pense que oui aussi, mais bon, c'est un apport plus, mais ça fatigue les joueurs. Là, on n'est pas bien dedans. Franchement, je suis mitigé. Hein. Voilà, je sais pas trop.
Bon, 20 ans, tant mieux, pour les amoureux du foot, il y a du suspense.
Aussi.
Hein, on disait que le championnat, parfois, manquait un petit peu de saveur, même si on marque quand même beaucoup de buts hein, dans ce championnat de France. Hein. On a marqué 25 buts mercredi lors de la 18e journée, on a marqué 31 buts ce week-end, donc c'est bien.
À Nice, la semaine dernière, qui avait cartonné Montpellier.
Ouais.
Là, on a vu Monaco qui ont cartonné
Ajaccio.
Ça s'est fini en 7-1. Voilà, là on voit des équipes quand même qui marquent beaucoup de buts. Bon, ça fait plaisir, ça fait du spectacle, de l'animation. Voilà, il y a du beau jeu. Voilà, c'est...
Alors, on va justement rappeler quelques résultats très brefs de la journée de mercredi. Le Paris Saint-Germain a battu Angers 2-0. Match nul entre Strasbourg et Lens 2-2. 3 qui a été battu à domicile par Marseille 2-0. Et puis Nice qui avait cartonné devant Montpellier 6-1. Et puis les résultats de ce week-end. Donc, naturellement, défaite du Paris Saint-Germain à Rennes 1-0. Lens qui s'est imposé devant Serre 1-0. Victoire de Marseille devant Lorient 3-1. Strasbourg qui va gagner à Lyon 2-1. Ça, c'est encore un couac pour les Lyonnais. Et puis donc, la nette victoire de, on l'a dit, de Monaco face à Ajaccio 7-1. Donc le Paris Saint-Germain, premier 47 points, deuxième Lens 44 points, troisième Marseille 42 points et quatrième Monaco et Rennes 34 points.
Ouais, écoutez, c'était une belle journée de foot.
Oui, ouais.
Alors, une belle journée de foot, mais les défenses en Ligue 1, c'était quand même compliqué. Hein. Ajaccio qui a été complètement dépassé, Mamadou Sakho et Montpellier, c'était très compliqué. Mm-hmm. Beaucoup de buts, ouais. Il y a une autre équipe aussi qui a gagné 5-1.
Oui.
Ouais, donc. De beaux buts,
Toulouse.
Mais derrière.
Ouais, c'est voilà. Toulouse. Ouais. Non, c'est vrai qu'on marque quand même un championnat où on marque. Hein. Je crois qu'il y a eu 30 buts et puis 28 buts dans les deux autres journées précédentes. Donc c'est quand même un championnat où on marque au moins des buts.
Oui, oui, franchement, il y a beaucoup de buts hein, de part et d'autre. Après, je pense que les défenses, voilà, ils peinent un peu, comme Antoine vient de le dire, mais. Les attaquants aussi jouent bien le coup, ça joue bien offensivement. En fait, je pense que là, maintenant, le jeu est plus vertical. Du coup, c'est ce qui fait que ça amène beaucoup de buts de part et d'autre. Voilà. Après, j'aimerais bien revenir sur l'incident de Lyon.
Oui, bien sûr.
Voilà, Lyon qui sont dans le dur déjà depuis plusieurs matchs. Les supporters
lyonnais,
voilà, les supporters lyonnais qui n'en peuvent plus du tout.
Ouais.
Et franchement, voilà, moi, en tout cas, j'ai vu une scène un peu dommage. Et voilà, pour Karl Toko Ekambi qui sortait... Ouais. Qui sortait notamment face à Strasbourg, c'est ça, qui sortait face à Strasbourg à peu près à la 60e minute. Chaque touché de ballon, déjà, il se faisait huer. On se rappelle déjà, parce que ça ne date pas que de maintenant, même si toute l'équipe se faisait huer, en tout cas une bonne partie de l'équipe, parce qu'à la fin, Cherki et, je ne sais plus, et Lopez, ils ont été applaudis à la fin par les supporters lyonnais. Mais à part eux, tout le reste se faisait siffler dès qu'ils touchaient le ballon ou quoi que ce soit. Mais il y a un truc plus profond. En fait, depuis que Karl Toko Ekambi a marqué le but décisif avec son équipe nationale, le Cameroun, contre l'Algérie, depuis ce moment-là, depuis qu'il est revenu à Lyon, on s'en rappelle, dès le premier match, les drapeaux algériens, les insultes, les trucs, etc. Et je pense que là, voilà, ça a pris encore une plus grosse ampleur.
Oui,
parce que
il n'était pas content dans
voilà,
le vestiaire. Hein.
Il n'était pas content, c'est normal. Il y a de quoi être frustré, tu vois. Tu te fais siffler par huer depuis déjà un certain nombre de matchs. Et voilà, franchement, c'est dur. C'est très dur. Parce que là, c'est même pas en plus avec son club. Parce qu'avec Lyon, OK, il n'est pas à la hauteur. Mais dans toute l'équipe, personne n'est à la hauteur. Mais là, comment il le vise particulièrement, je pense que c'est vraiment... c'est pas très courageux.
Il
y
a eu des banderoles aussi.
Il y a eu des banderoles aussi. Il mettait sa photo et il disait « dégage », etc.
Ouais,
voilà.
Tristan, vous, l'homme de l'OM, vous allez donc au stade à Paris, c'est facile d'aller voir un match à Paris, Parc des Princes ou le Paris FC éventuellement.
C'est pas évident parce que aller voir un match au PSG, ça coûte cher. Hein,
il faut
avoir ses entrées. Donc quand j'ai une petite place qu'on me passe sous le manteau, j'y vais avec plaisir. Et puis il y a le Paris Football Club aussi, côté Est, à Charletti, qui est en train de monter. Et dont le stade est quand même plus accessible financièrement.
C'est sûr.
Mais quand je peux, j'y vais.
Et sinon, des tels débordements, là, comme vis-à-vis de Toko Ekambi, ça, malheureusement, c'est la mauvaise facette du foot.
Le foot, c'est le sport le plus populaire qui soit. Et donc, forcément, on a les passions les plus débordantes et parfois négatives qui soient. Ouais. Mais on le voit dans d'autres sports.
Oui. C'est le reflet de la société, c'est toujours ce qu'on a dit. Donc, dès que ça ne va pas, il faut le dire. Hein, on a raison. Voilà. Donc, derrière, donc en bas du classement, 3 et 14e avec 18 points. 15e, Montpellier, 17. Attention, Montpellier. Hein.
Les supporters ne sont pas contents.
Cette
année-là, les supporters, dès le début de saison, je pense, ils se sont fait peut-être un peu influencer à cause des supporters stéphanois qui coursaient, j'en rigole, mais c'est absolument pas marrant, mais ils couraient après les joueurs au coup de sifflet final, c'était incroyable, c'était du jamais vu, voilà. Et du coup, là, les supporters, ils montrent, comme les supporters lyonnais hier qui essayaient de rentrer à la fin du match, ils ont essayé de casser les barrières, les supporters de Montpellier sont pas contents, ils lâchent des banderoles insultantes, vraiment très insultantes, et c'est, franchement, j'ai pas de mots pour qualifier ce genre de comportement.
Alors 16e Strasbourg, Brest, Ajaccio 15 points, 19e Auxerre 13 points et 20e Angers 8 points. Bon, Angers est décroché, par contre derrière ça va être serré pour 4 ou 5 équipes.
Oui, hein, je pense que ça va jouer jusqu'au
pour le maintien. Ouais.
Oui, je pense que ça
Allez,
va jouer jusqu'au
la Ligue 2, hein, c'était aussi donc la 18e journée et la 19e journée cette semaine. Alors en 18e journée, on va rappeler que Le Havre a battu Sochaux 1-0, que Caen et Bordeaux ont fait nul 2-2, le Paris FC a battu Dijon 2-1 et Saint-Étienne a enfin renoué avec la victoire en battant Laval 1-0. Et puis 19e journée, Le Havre a battu Nîmes 3-1. Bordeaux, Amiens 1 partout. Le Paris FC a été battu Annecy 2-0. Et donc New York Saint-Etienne, c'est ce soir. Et Sochaux-Caen, donc match qui sera décalé à vendredi prochain. Le Havre en tête avec 42 points, devant Bordeaux 33 points. Donc le trou est fait quand même. Hein. 3e Metz, 31 points. 4e Sochaux et Grenoble, 30 points. Et en bas, deux tableaux. Donc 17e Rodez, 19 points. 18e Niort, 17 points. 19e Nîmes, 16 points. Et 20e Saint-Etienne, 15 points. Le Paris FC est 8e avec 27 points. Bon. Ils sont en milieu de tableau. C'est à l'image de leur saison.
C'est à l'image de leur saison. C'est bien. Ouais. Paris FC, c'est une saison, ils jouent les playoffs. On croit tous qu'ils vont se qualifier pour la Ligue 1. Finalement, non. La saison d'après, ils jouent le maintien.
Trois années de suite, en plus.
Oui, c'est tout le temps. C'est ça. Depuis un moment, en tout cas, nous, quand on observe le Paris FC, on y croit à chaque fois. L'année dernière, on y a vraiment cru. Et là, ils sont à 6 points de la deuxième place. Ça paraît quand même, c'est jouable.
Ouais,
on a la moitié, mais c'est quand même,
c'est
jouable encore, mais ouais. ça va être compliqué. Le Havre, eux, ils ont pris vraiment, 42 points, 9 points d'avance sur le deuxième.
Ouais.
Je pense qu'ils vont être un peu peinards, mais attention quand même,
attention, parce qu'on
n'est qu'à la moitié.
Ouais, moitié
et Bordeaux est son deuxième. Je pense que ça va plus se jouer entre Bordeaux et Metz et Sochaux aussi. Hein. Sochaux à chaque fois, les playoffs, ils sont proches de remonter. Oui, non. C'est un peu comme le Paris FC, j'ai l'impression. Et
alors, on va rappeler quand même que Sochaux-Caen est le seul match qui sera décalé au week-end prochain, en même temps que la Coupe de France. Bon, ces deux équipes sont éliminées de Coupe de France simplement parce que le président de Caen a perdu sa femme et que les obsèques avaient lieu le jour du match. Donc la moindre des choses, c'était de pouvoir donc repousser ce match et il sera joué donc vendredi. Antoine, un petit mot sur cette Ligue 2, le Paris FC, qui est en milieu de tableau.
Ouais, 8e place. Bon, c'est des matchs un peu en quinconce, victoire, défaite, match nul. J'aimerais quand même revenir sur Saint-Etienne. Ils sont à 15 points là, ils sont derniers. Je pense que les 3 points qu'ils ont perdus. Ouais, c'est jouable.
Encore
les
3
points qui ont été supprimés. Enfin, ils ont eu 3 points comme une punition après ce qu'ont fait les supporters. Je pense que ça peut leur faire du mal parce que là, on leur ajoute 3 points. Ils sont 18e à un point de Rodez. Il y a 4 équipes qui vont sortir cette année. Ça va être compliqué pour les Verts quand même.
Avec une journée en moins.
Avec une journée en moins.
Voilà. Mais franchement, moi aussi, je voulais revenir sur Saint-Etienne. C'est ce que je disais la semaine dernière, avant qu'ils gagnent contre Laval. Je disais que moi, je pense que Saint-Etienne vont se maintenir.
Oui,
et
ça peut...
je pense que Saint-Etienne vont se maintenir.
Oui,
voilà.
Il n'y a que 4 points sur le 17e. Ça peut le faire. Hein. C'est pas. Malgré les 3 points de retard. Hein.
Ouais, ce serait bien pour ce club emblématique. Et on voit les supporters qui sont toujours là quand même.
Pour l'instant, il y a 6 points de différence avec le 16e, parce que le 16e n'est pas relégable, le 16e, mais 6 points avec un match de retard. Du coup, s'ils gagnent le prochain match, ils seront qu'à 3 points.
Oui.
Je pense que c'est jouable.
Mm-hmm.
C'est jouable.
Bon, là aussi, ça laisse.
Et j'espère, en tout cas, je l'espère que Saint-Etienne.
Oui, parce que c'est un grand nom du foot.
C'est Saint-Etienne.
Ça ferait mal de voir les Verts en National 1.
Bien sûr. Ah oui, surtout en National 1. Allez, justement, la National 1, 17e journée, là aussi, c'est un mi-parcours. Alors, on va rappeler la victoire de Versailles et Avranches 3-1. Le Restart qui a cartonné devant Châteauroux 3-0. Et Cholet qui vient gagner donc au Paris Atlético 3-1. Ce soir, Bourg-en-Bresse-Concarneau à 21h. Donc Versailles-Martigues en tête avec 32 points. 3e Restart, 31 points. 4e Concarneau, 30 points. Le Paris-Atlético est 15e, à égalité avec le Puy, 16 points. Devant donc Brest, 17e, 14 points. Et 18e Borgo, 10 points. Le Paris-Atlético qui joue toujours avec l'échafaud. Hein. Ils vont se battre jusqu'au bout pour ce maintien.
Franchement... C'est un peu comme le Paris FC. C'est un peu comme le Paris FC, mais voilà. Mais là, franchement, c'est bizarre parce qu'ils nous donnent un peu d'espoir. On se dit ils peuvent se maintenir. Et franchement, de l'autre côté, en vue de leurs résultats, on se dit ils peuvent pas se maintenir. Franchement, on sait, Paris 13 Atlético, c'est un club de cœur. C'est un club où on y a joué pendant de nombreuses saisons. C'est un club où aujourd'hui, même mes frères y jouent encore, etc. Mais franchement, de les voir comme ça... Ça peine, mais je sais pas c'est quoi le souci. Ils ont changé de coach, ils ont truqué.
Ouais, et puis on a le sentiment qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé.
Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il n'y a pas de nouveau souffle, je sais pas. honnêtement, je ne sais pas.
Il y a du public qui vient quand même.
Il y a du public qui
vous trouve là.
Oui, il y a du public.
Parfois Charlie qui.
Il y a du public qui vient quand même. Bon, moins maintenant, de moins en moins, voilà. Mais il y a quand même du public qui vient, surtout les proches des joueurs, etc. Les proches du club ou ceux qui ont l'habitude, qui habitent dans le quartier et qui ont l'habitude d'assister aux matchs du Paris 13 Atlético, ils y vont, voilà, avec. Ils y vont pour essayer de les supporter ou quoi, mais c'est difficile. Franchement, c'est très difficile.
Tristan, vous, l'homme du vélo à Paris, ce serait bien qu'il y ait deux grands clubs parisiens en Ligue 1.
Oui, ce serait bien un côté est, un côté ouest. Je pense que le Paris FC tient la corde hein, sur ce, de ce point de vue-là. Après, il y a d'autres clubs, le Red Star notamment, qui essayent de jouer.
Le Red Star, ils ne sont pas loin, troisième,
troisième. Le Red Star, ils n'ont jamais été loin, mais ils ne sont jamais arrivés au Ligue.
Mais là, bon, ils ont un petit point de retard sur Versailles. Versailles, qui est aussi une belle équipe, hein. Étonnant de Versailles quand
bien
même.
Bien sûr, ouais. Versailles aussi.
Ouais, qui sort d'une très belle Coupe de France l'année dernière.
Oui. Alors, c'est vrai que, bon, il faut attendre le match de ce soir, où si Concarneau gagne, il devrait repasser en tête, mais enfin, bon, voilà quoi. Donc, Versailles et le Red Star sont quand même des clubs franciliens qui eux portent hautes les valeurs du national, donc et qui peuvent pourquoi pas donc rejoindre une Ligue 2 la saison prochaine. Ouais. Allez, un petit mot sur les féminines, faut pas oublier 12e journée, Paris Saint-Germain qui a battu Rodez 1-0, Lyon qui va gagner à Soyaux 3-0 et puis Paris FC battu par Fleury-Mérogis 2-0. Du coup, bah, le Paris Saint-Germain est en tête avec 32 points, devant Lyon deuxième 31 points, troisième Montpellier 22 points et quatrième, eh bien le Fleury-Mérogis qui rejoint le Paris FC 21 points. Donc c'est pas une bonne opération pour le Paris FC ce week-end.
Attendez, j'essaie de retrouver.
C'est pas une bonne opération.
C'est pas une très bonne opération. Ils sont cinquième là. Le PSG qui est solide leader encore, seule équipe invaincue.
Oui, mais ça va se battre avec eux.
Ouais, ça va se battre. Bah, comme toujours, hein, Lyon, les deux cadors français. Il y a de belles joueuses du côté du PSG.
Alors, on n'en avait pas parlé la semaine dernière. On va quand même rappeler que le Paris Saint-Germain, en terminant deuxième de sa poule, et Lyon qui a aussi fini deuxième de sa poule, joueront les quarts de finale de Ligue des Champions chez les féminines. Hein. Ils n'avaient pas effectué un très, 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 très beau début. Et puis, finalement, ça s'est quand même beaucoup mieux passé donc dans la deuxième moitié de cette phase de poule. Et donc, elles ont pu arracher leur billet pour les quarts de finale, même si elles vont tomber sur un premier de poule.
Oui, bah, comme les garçons, en fait. Hein, oui. Les Parisiens ont écopé du Bayern. Pour les Parisiennes et pour les Lyonnaises, ça va être la même histoire.
Voilà donc pour les championnats, j'allais dire, nationaux. Je voudrais quand même qu'on parle des championnats étrangers. Manchester City, Manchester United, tu as suivi ?
J'ai suivi,
ouais,
comme
alors,
d'hab. Hein.
Alors, ouais, bien sûr, c'est pour ça que je te pose la question.
Non, franchement, le match, il était beau.
Ouais.
City était en dessous. Ouais. City était en dessous un peu, dans le dur. Avec une très grosse polémique, parce que honnêtement, moi j'ai vu l'action en direct, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. L'arbitre.
On n'a pas senti Guardiola.
Il y a hors-jeu. Mais après je pense que.
Il y a pas de bar en Angleterre.
Comment ?
Je blague.
Ouais, mais après je pense que. On a vu, il y avait l'arbitre insistant. Comment la pression qui a été mise sur l'arbitre assistant au moment où il dit il y a hors-jeu, au moment où on voit Bruno Fernandes, etc., qui arrivent tous dessus, et là on le voit littéralement perdre. Il recule, il dit non, ça va être visionné, ne vous inquiétez pas, etc. Et il leur accorde le but, franchement, c'est un scandale.
Ouais, parce c'est un scandale. Il fait effet de jeu. Hein.
Il fait effet de jeu.
Il touche pas le ballon.
Bien sûr,
okay,
il fait pas le ballon,
gêne.
Ok, mais il fait la course juste. Ouais, il est juste derrière le ballon. Il fait la course et il se décale juste pour que Bruno Fernandes le tire. Si sur ça tu ne siffles pas hors jeu, je sais pas sur quoi tu siffles hors jeu.
Il y a des buts qui ont été annulés pour beaucoup moins. Hein.
Pour juste beaucoup pour moins. Jeu. Bah oui, pour
mais
beaucoup moins.
Mais il a pas
moins.
Été rappelé par les arbitres.
Non, et les arbitres derrière après ont confirmé la décision de l'arbitre. Ils ont confirmé le comité des arbitres ont confirmé la décision de l'arbitre. Il dit qu'il n'y a pas commis de faute et il n'y avait pas hors-jeu. C'est incroyable. Voilà, ils se sont fait, on peut dire, ils se sont fait voler, clairement. Ouais. Mais après, en vue du match, United, en tout cas, ne méritait pas de perdre. Peut-être un match nul ou quoi, mais Manchester City, ils ont mal joué le coup. Franchement, je ne sais pas ce qu'ils ont. Ils ont perdu contre Southampton 2-0. Ils ont rejoué le match d'après. Et juste avant, ils sortaient d'un match nul. Là, encore une défaite à Manchester United.
Pour aussi, la Coupe d'Europe arrive. Hein. Ils vont être s'inquiétant aussi. Hein.
Pour aussi, la Coupe d'Europe arrive. Après, contre Manchester City, ils jouent contre...
On va les retrouver.
Ouais, ouais. C'est un deuxième, ouais. Parce qu'ils ont fini premier.
C'est un deuxième, mais je pense pas que c'est une grosse équipe.
Non.
Donc, voilà, c'est pas une grosse équipe. Du coup, voilà, je pense qu'ils pourront un peu se remettre, mais attention quand même.
Contre Leipzig qui vont jouer.
Contre Leipzig. Attention.
Il y a quand même de la qualité avec Nkunku qui est encore très en forme, donc il faudra qu'il fasse attention. Après, voilà, City, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Je pense que ça fait partie des grandes équipes qu'on découvre moins. On voit le PSG. Bon, le PSG, je trouve ça quand même plus laborieux que ce que produit City. Mais contre le match contre United, j'ai pas reconnu la patte de Guardiola. Il n'y avait pas de tactique, ils étaient perdus. Alors, il y avait, c'est toujours un choc, hein, le derby mancunien, mais c'était une très belle performance des Red Devils. Et il emporte avec un Bruno Fernandes déchaîné après son but. Ouais.
C'est ça. Et Arsenal, après Arsenal, qui prennent le leadership. Je suis vraiment Hugo content pour Arsenal. Hugo Lloris, sans commentaire, je pense, passer Hugo Lloris sans commentaire. Il a pris sa retraite internationale.
Il a annoncé qu'il met un terme à sa carrière internationale.
Mandanda
tout
aussi.
Comme Mandanda. Hein.
Exactement. Bon. Ils ont commencé ensemble. Ils
malheureusement,
ensemble.
On pouvait un peu s'y attendre quand même. Hein.
On pouvait s'y attendre. Ils ont commencé ensemble, comme il l'a dit Mandanda. Ils finissent ensemble parce que voilà, ils ont commencé quelque chose ensemble. Et c'est un bon binôme. Depuis un moment, ils sont ensemble, etc. Du coup, voilà. Après, Hugo Lloris. C'est le troisième but contre son camp de sa carrière.
Ouais. Celui-là, il est grossier. Hein.
Celui-là, il est grossier. Oui, non, celui-là, il est grossier. Il n'y a rien à dire. Après, voilà, moi, je l'ai toujours dit, même là, pendant la Coupe du Monde, hein, Hugo Lloris, c'est un bon gardien, mais ce n'est pas un gardien de classe mondiale. Et ça n'a jamais été un gardien de classe mondiale. Malheureusement, en tout cas, c'est ce qui manque à la France. Je pense que, en tout cas, c'est ce qui nous a manqué en finale. J'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie, mais en tout cas, je pense que c'est ce qui nous a manqué.
C'est pas l'homme des pénalties. Bon, après,
c'est pas l'homme des pénalties.
C'est quand même un homme de tournoi. Hein, en 2014, il avait été exceptionnel. En 2018, pardon.
En 2018, exceptionnel, j'ai pas le souvenir. Surtout que je me rappelle qu'il fait une bourde en finale contre la Croatie.
Oui, c'est sûr.
Exceptionnel. Voilà. Comme un gardien. Comme un bon gardien.
Oui, c'est ça. Bon, après, les pénalties, ça a jamais été son fort. Et puis, pour continuer à parler des gardiens, Ramsdale, le gardien d'Arsenal, s'est fait frapper par un supporter.
Ah oui, on l'a vu en image.
Un coup de pied, là, ouais. Donc, alors,
vous voyez, même en Angleterre, ça arrive. Hein.
Ouais, c'est clair. Ouais.
Bon, en Angleterre, c'est plus souvent. À la Cantona, exactement, c'est ce que j'allais dire. Ouais. En Angleterre, c'est beaucoup plus souvent, ça. Ouais. On le voit vraiment. Et Arteta qui vient tout de suite calmer Xhaka, qui vient calmer aussi le gardien, etc. Parce qu'ils ont pris les 3 points, ils ont fait le taf, ils ont 8 points d'avance sur Manchester City, ils sont à la mi-saison. C'est tout droit. Franchement, le titre, il est tout droit. La première ligue, là, c'est tout droit. Arsenal, s'ils n'y arrivent pas au bout, je ne comprendrai jamais cette équipe. Vraiment. Mais j'espère qu'ils vont le faire.
Un petit mot sur la Supercoupe d'Espagne, avec la victoire du Barça.
La Supercoupe d'Espagne.
Hein, Xavi, son premier titre comme entraîneur.
Xavi, son premier titre comme entraîneur. Voilà, il a voulu retenter un truc qui n'avait pas marché. C'était un milieu, faire jouer 4 milieux de terrain. Mm-hmm. Hier, ça a bien fonctionné. Enfin, ça a bien fonctionné, je ne sais même pas, parce que du côté du Real de Madrid, je ne sais pas c'était quoi. Je sais pas c'était quoi la tactique, en fait, du côté du Real Madrid. Il n'y en avait pas. Il a juste aligné des joueurs et allez-y. Il fait sortir Camavinga. Ok, il fait l'erreur sur le premier but, mais il y a Camavinga qui se battait au milieu de terrain. Modric, Kroos, il se faisait passer n'importe comment. Il est trop vieux, Kroos. Franchement, honnêtement, quand on a le ballon, c'est une aide précieuse, mais quand on n'a pas le ballon pour défendre, voilà, Kroos, il le passe trop facilement. Et là, ils ont mis que des jeunes. Et j'avais l'impression que c'était des jeunes qui jouaient contre une équipe de vétérans. Vraiment, le Real Madrid essoufflé jusqu'au bout. Il n'y avait que Vinicius. Vinicius, et je peux dire, à la limite, Eder Militao et Rudiger, sans compter Thibaut Courtois. Mais sinon, le reste, ils étaient tous dans le vent. Mmh. Et là, j'ai vu l'importance d'Aurélien Tchouaméni.
Ouais,
excusez-moi,
manqué,
l'importance d'Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain. On a vu le dernier match contre le Real de Madrid. Le Real, ils ont gagné 3-1. Aurélien Tchouaméni, on a vu les montages qui ont suivi. Tellement il a fait un gros match.
Ouais,
et Pedri et Gavi,
on
les a pas vus. On n'a pas vu Pedri, ni Gavi, ni. Voilà. Et là, on l'a vu. Là, on a vu. Franchement, il faut recruter un milieu de terrain. Et je pense un attaquant aussi, parce que Benzema n'y est plus du tout. Voilà,
et puis c'est le premier titre du Barça depuis
oui,
Lionel
oui,
Messi.
Oui. Ouais, depuis que Lionel Messi est parti, bien sûr. C'est
on titre. Va saluer notre ami Stéphane Dezenclos. Stéphane, bonsoir. Stéphane, bonsoir. Bon, alors on va le rappeler, hein, notre partenaire du quotidien du sport.fr hein, qui complète. J'aimerais qu'on parle un petit peu aussi des remous au sein de la Fédé. On en avait un tout petit peu parlé la semaine dernière. Ça y est, c'est fait. On a retrouvé Stéphane. On parlera après des remous à la Fédé. Bonsoir Stéphane.
Salut.
Oui.
Ça va ?
Ouais, ça va.
Tout va bien ?
Oui, tout le monde va bien. Alors donc, le coup de cœur, coup de gueule de la semaine de foot.
Ouais, écoute, je suis pas hyper tout de suite prêt. Si, attends, je le mets. Je te le dis tout de suite. Il
ça
est
va
là,
faire
voilà,
sur
voilà.
Cette journée de championnat, donc notamment la fin de cette première moitié de championnat. Il va y avoir match pour le titre de champion de France ?
Ah ouais, oui. Sans problème, bien sûr. Oui. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, parce que c'est pas le fait que l'OM et le Lens soient revenus si près, c'est surtout le fait que Paris, s'ils continuent comme ça.
Ouais, c'est ce qu'on disait avec Aladji.
Si quand ils vont aller à Marseille, qu'est-ce qui va se passer? Puis bon, ils vont attaquer la Ligue des Champions. On connaît tous l'espèce de climat anxiogène qui va entourer tous les matchs. Et ils sont nuls et machin et tout. Ça va être là, ils vont se focaliser sur ça. Non, c'est assez clair, quoi. C'est clair. Ouais. Bon, alors moi, les coups de cœur et les coups de gueule, donc l'année, enfin, presque, hein, parce que l'année, c'était pour moi au début de la semaine dernière, elle a commencé par un phénomène que je trouve incroyable, qui résume bien notre société. Après avoir laissé passer les derniers mois, l'avoir laissé dire tout et n'importe quoi sur le racisme, l'homophobie dans le foot, le sort des ouvriers au Qatar, après avoir été accusé d'harcèlement sexuel, se moquer éperdument du football amateur, Noël Le Graët a fini par tomber pour avoir dit qu'il n'en avait rien à secouer de Zinedine Zidane. Ouais. Une goutte d'eau dans un vase plein de bip, je dirais, mais qu'il a fait déborder ce vase. Pour rappel, le papy, il a quand même été réélu avec 73% des suffrages il y a moins d'un an. Donc ça, je crois qu'il ne faut pas quand même qu'on le dise. Et ce qui m'agace, c'est que toute cette histoire a presque fait passer la prolongation de Didier Deschamps comme un choix malvenu, déplacé et forcé. Dédé, il a tout gagné. Et même quand on prédit qu'il va se ramasser comme une grosse bip dès le premier tour de la Coupe du Monde avec une équipe de remplaçants, et ben il est à deux doigts de réussir un exploit incroyable dans l'histoire du football. Le souci, c'est que maintenant, on ne sait plus quoi faire de notre Zizou. Je dis « notre » parce qu'on a bien compris, s'il en était encore besoin, à travers l'affaire Le Graët, Zizou, c'était la France, c'était nous. C'était toi, Philippe, c'était moi.
Absolument.
C'était Eladj, Abou, c'était nous, c'était la France. Alors moi, j'ai une idée, plutôt que de le laisser partir au Brésil, en Belgique ou je ne sais où, bah, qu'il vienne s'asseoir sur le banc du PSG, notre Zizou. Parce que là, il y a du boulot. Hier, Paris a perdu son deuxième match de Ligue 1 à Rennes, de façon honteuse, hein, n'ayons pas peur de le dire, au point que l'on peut s'inquiéter grandement à moins d'un mois de la venue du Bayern au Parc des Princes. Alors Christophe Galtier, c'est le champion de l'analyse, il pose les bonnes questions sur la mauvaise façon de jouer de son équipe, mais match après match, il ne donne pas les solutions. Enfin, en dehors des conférences de presse, où il a souvent quand même des bons mots.
Excuse-moi,
autre
Stéphane.
Beau parleur, c'est distingué cette semaine, Jean-Michel Aulas. Sauf que là, on est carrément dans le foutage de gueule et à outrance. Rendez-vous compte quand même que le patron de l'OL est à deux doigts de mettre la responsabilité de la catastrophe sportive que vit son équipe sur le dos des supporters. Il est déçu, le deuxième papy célèbre du football français, de voir les supporters en colère. Quand les supporters attaquent les dirigeants, c'est moi qu'ils attaquent, explique-t-il. Eh bien oui, monsieur Aulas, c'est bien vous qu'ils attaquent, les supporters. Alors que l'OL se dirige vers une quatrième saison sans Ligue des Champions, et même très certainement une saison sans compétition européenne, JMA nous explique qu'il maîtrise, qu'il sait tout et qu'il va y remédier. Ce qu'il aurait surtout dû ne pas faire, Aulas, c'est virer Genesio en 2019, vendre Paqueta, Guimarães ou Gouiri, ne pas vendre Dembélé, Aouar et recruter Shaqiri, Boateng et même dernièrement Lovren. On en passe et des erreurs de JMA. Alors, je vais terminer quand même par là, du coup, un coup de cœur, un immense coup de cœur et coup de chapeau au RC Lens, qui réussit samedi un 10 sur 10 unique en battant Auxerre. Francaise et ses joueurs ont gagné leurs 10 rencontres jouées à domicile cette saison. Ils sont désormais revenus à 3 points du PSG et peuvent, on en parlait avant, et peuvent bien sûr rêver du titre de champion. Même si ce sera un peu plus dur, l'OM aussi peut rêver d'un titre de champion. Avec une première partie de saison record, Igor Tudor et ses hommes sont plus que jamais dans la course, au point même qu'ils peuvent rêver et avoir les rêves les plus fous de ce titre. Pourtant, rappelez-vous, le soir de la première journée, c'est sous les sifflets que l'entraîneur croate a été accueilli au Vélodrome. À l'époque, Pablo Longoria était monté au créneau pour défendre son coach et surtout, il avait expliqué que Tudor, c'était le projet du club. Eh bien non, monsieur Aulas, les supporters ne sont pas à l'origine de tout.
Très bien, il en forme notre ami Stéphane. Une réaction de Eladj, tu voulais réagir?
Ouais.
Coup de gueule de notre ami Stéphane.
Ouais, je voulais réagir. Ouais. Franchement, Stéphane, est-ce que tu aimes bien Zizou?
Zizou?
Oui.
Comme coach? Comme quoi? J'aime bien comme quoi?
Comme personne, comme personne.
Bon, bah, je t'avoue que je l'ai un peu fréquenté à une époque, à ses débuts. Oui, dans l'ensemble, plutôt. Oui, plutôt. Pourquoi?
Franchement, c'est pas Zidane. tu ne peux pas lui souhaiter d'aller sur le banc du PSG. Pas aujourd'hui.
Ah, d'accord.
Clairement, pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Clairement. Je te le dis, voilà. Clairement, c'est lui donner des maux de tête, des franchement, de la polémique tous les jours. C'est vraiment, c'est des maux de tête tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je kiffe Zizou. Franchement, je kiffe Zizou. J'aimerais tellement qu'il vienne au PSG. Mais je sais qu'en tout cas, pour son bien-être à lui et pour le bien-être, je sais pas moi, mais il ne peut pas venir
au
PSG.
Ouais, mais bon, toi, t'es pas supporter du PSG, parce que si t'étais supporter du PSG, quoi, un temps soit peu, t'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un d'autre quand même que Galtier.
Oh, pas forcément.
Pas forcément, écoute-moi. Quand Galtier est arrivé, franchement, Galtier, il a fait du bien. Il est arrivé avec des nouvelles tactiques, etc. Le problème, Stéphane, je vais te le dire, et tu vas pas être content, et tu vas... Voilà, mais je vais te le dire. Le problème, c'est Neymar et Messi. Et qu'est-ce que je disais en début de saison ? Tu t'en rappelles, Stéphane ? Je te disais que pour l'instant, ils jouent, mais parce qu'ils ont une Coupe du Monde à préparer. Mais après la Coupe du Monde, quand ils vont revenir, tu vas voir. Et là, on l'a vu, on le voit, ça fait deux matchs, on le voit. Messi, invisible, Neymar, catastrophique. Déjà, dès son premier match, on l'a vu. Il met une baffe, juste après, il va simuler dans la surface, il se prend un carton rouge. On l'a vu, dès le début, il a montré la couleur. Voilà, il a montré la couleur dès le début. Il en a rien à foutre. Voilà. Lui, comme Lionel Messi, il a gagné sa Coupe du Monde, là, ça y est.
Je partage pas ton avis, juste...
Je sais bien.
Quoi, une partie, je la partage. Notamment pour celle qui concerne Neymar, je la partage pas pour celle de Messi, parce que je trouve que Messi, par exemple, hier à Rennes, il a pas été du tout moins bon, à part peut-être le petit jeune et puis Donnarumma dans les buts, il a pas du tout été moins bon que les autres. Donc, mais Neymar, je suis bien d'accord avec toi, je sais pas quelles sont les raisons et tout, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, je comprends pas, quand je regarde le match d'hier, je comprends pas que Neymar, il reste une heure et demie sur le terrain, quoi. Je veux dire, et je me dis peut-être un Zizou, peut-être un autre coach, j'en sais rien, aurait peut-être osé le sortir en disant que t'es pas dans le coup.
Sauf que c'est pas eux qui choisissent, on le sait bien, Stéphane, c'est pas eux qui choisissent, ils ne peuvent pas faire ça. Ils n'ont pas les pleins pouvoirs. Ouais, comment tu veux que Zizou fasse de la magie, il n'a pas les pleins pouvoirs. Ça n'est pas possible. Au PSG, aujourd'hui, le réel problème, c'est ça. Quand on prend un coach, on ne lui laisse pas le plein pouvoir. Et du coup, ça devient compliqué. Et voilà.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai été le premier à faire des articles en écrivant et en défendant des Wijnaldum, par exemple, qui arrivent d'Angleterre. Et j'ai vu des tweeters qui disaient la même chose un peu ces derniers temps. On prend un crack qui joue. Tu prendrais De Bruyne, il viendrait au PSG. Je pense qu'au bout de trois mois, il est nul, quoi. Parce qu'il est sûr de jouer tous les dimanches. Parce que il discute avec le président. Il discute ceci, cela. Il est peut-être pas à sa bonne place. Et tout, j'en sais rien. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Ah oui.
Là, c'était les coups de gueule, les coups de cœur. C'est un peu une façon de stigmatiser, de symboliser un peu les événements. Mais je suis vraiment d'accord avec toi. Pour moi, c'est pas le club. Mais par contre, où je suis pas d'accord, c'est de stigmatiser sur Messi et Neymar. Parce qu'il y a Neymar qui a été mauvais, effectivement. Alors, même s'il reste, si les autres sont bons à côté. Mais je veux dire, faut arrêter, quoi. Je veux dire, Ramos, faut arrêter. Il y a plein de joueurs qui sont mauvais, qui sont pas bons. Et puis surtout, c'est l'équipe, quoi. Moi, j'étais sidéré. Bon, j'ai jamais été un grand fan de Christophe Galtier. D'ailleurs, si les auditeurs ils veulent faire des recherches sur notre site, ils verront les articles dans lesquels j'expliquais même, avant qu'il vienne, ce n'est pas possible, il ne peut pas venir au PSG, il ne peut pas, je veux dire, donc je ne suis pas du tout un grand fan. Mais alors, le voir hier, quand une mi-temps, tu vois, je ne sais pas, moi, je ne suis pas un grand tacticien de football, quoi, mais complètement bloqué sur l'intérieur et tout, tout le jeu de Genesio, il a été fait pour bloquer sur l'intérieur les joueurs et tout, et qu'on est incapable et qu'il n'y a pas un coach sur le terrain qui change quelque chose et tout ça. Moi, si tu veux, ce que j'adorais, même au début, j'adorais un Tourelle, par exemple, au PSG, il était, au début, quand il était là, hein, la première année, il était emmerdé pendant une demi-heure, à la mi-temps, il changeait tout, et tu savais que ça allait aller mieux à la mi-temps. Là, il n'y a rien, quoi, à part le dernier quart d'heure.
Bien sûr, mais le problème, c'est que les bons coachs comme Tourelle, on n'arrive pas à les garder.
Parce qu'on va
toujours trouver quelque chose. Et tu vois, Genesio, il me fait rappeler un peu Galtier. Parce que, souviens-toi bien, Galtier aussi, voilà, dès qu'il prend une petite équipe, il joue contre le PSG, il réussit à leur tenir tête, tout ça, par moments, etc. Du coup, tu te poses des questions sur le coach. Genesio, c'est à peu près la même chose. Tu vas voir, d'ici un an ou deux ans, ils vont nous ramener Genesio sur le banc.
Ouais, mais Peut-être, mais la différence de Genesio, je peux te dire que je l'ai bien étudié, notre ami Bruno Genesio. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on passe dans un autre problème, hein, dont je parle un petit peu dans la chronique, c'est que la principale erreur alors il y a des tutos qui sont rigolos, j'aurais pu en parler aussi. Depuis quand, d'après vous, les supporters de l'OL, ils s'interrogent, ça va mal au club, depuis quand? Il y en a qui a répondu, depuis qu'il y a eu la VAR qui a été instaurée. Moi, je pense que c'est principalement depuis que Aulas il a viré Genesio, parce que peut-être il cherchait le niveau encore au-dessus, et les supporters sont tous d'accord pour dire que, quoi, beaucoup disent qu'il avait raison de le virer. Je veux dire, Genesio, il a quand même un passé de Ligue des Champions, il a toujours mis Lyon en Ligue des Champions, il a toujours su tirer quand même à peu près quelque chose d'une équipe. Bon, Galtier, je dis pas, là c'est dur de lui tirer dessus, je suis tout à fait d'accord. Mais moi, Galtier, j'ai jamais été un fan. C'est-à-dire, même quand il entraînait Lille, je pense que le titre de champion de Lille, il est offert sur un plateau par le PSG. 8 défaites cette saison-là du Paris Saint-Germain. Donc, c'est le Paris Saint-Germain qui a offert le titre à Lille, qui a fait un bon championnat, mais le PSG lui a offert. Ce qui ne serait pas le cas aujourd'hui si tu as Lens et l'OM qui ont des très bons...
Si, quand même. Excuse-moi Stéphane, mais c'est la même chose. Là, excuse-moi, on doit couper court, mais je te le dis franchement, le PSG, ils avaient combien de points d'avance sur Lens il y a encore 3-4 journées?
Oui, non, je suis d'accord avec toi.
Il y en avait beaucoup. Voilà. Du coup, ouais, là, si Lens réussit à le prendre...
Il n'y aura pas besoin de 8 défaites, là, comme c'est parti là. Tu n'auras pas besoin de 8 défaites.
Nous sommes qu'à la mi-saison, attention.
Ouais, mais tu n'auras pas 2. Tu en perds encore 3, je pense. 3 sur les matchs retour, tu peux perdre le titre face à un... Plus Lens que l'OM, je sens plus Lens que l'OM, mais bon, même par rapport à deux, si tu perds encore 3 matchs, ouais. tu perds au Vélodrome, par exemple, ça comptera quasiment double. Donc tu peux quasiment
le perdre. Tu peux compter déjà les 2 matchs après Ligue des Champions. Les 2 matchs après Ligue des Champions, tu peux les compter comme des
défaites. Il y a Lille en plus.
Ils ont l'habitude.
Il y en a pas un fait à Marseille, je crois, non ?
Je sais même plus, mais je sais en tout cas que même si on joue contre Angers, les 2 matchs qu'on va jouer après Ligue des Champions, ils seront KO, ils seront carbo, comme d'habitude.
En février, c'est Monaco, Lille, et je crois que derrière, je ne sais pas exactement la date, mais il y a Marseille aussi, je crois.
Ah bah voilà.
Très bien, Stéphane, merci en tout cas, ça nous promet une belle deuxième moitié de saison.
Merci les amis, bonne soirée à tous.
Allez, merci Stéphane. Voilà, juste pour finir, LAG, je voulais parler, donc on avait commencé sur les remous de la Fédé, bon bah voilà. On en a un petit peu parlé, Noël Le Graët donc a été mis en réserve.
Oui, il a été mis en retrait. C'est ça, voilà. Il n'a pas présenté sa démission, non, il n'a pas été viré. Il a été mis en retrait.
Ouais.
Voilà. Après, et je pense qu'il peut être en retrait, je ne sais plus combien de temps, je ne sais pas si c'est quelques
50
semaines.
50 jours, je crois. Voilà. 50 jours. Ouais, ouais.
Donc, 50 jours maximum.
Il me semble. Hein. Du coup, voilà. Après, il va falloir attendre l'audit et puis après. Bah,
moi, je pense juste qu'ils le mettent en retrait parce qu'il y a la polémique, mais ils vont le remettre dans le coup direct après. Voilà.
Ouais, je ne suis pas sûr.
En tout cas, bah, pourquoi le mettre en retrait? Pour moi, c'est maintenant, ils doivent mettre fin. Tout de suite.
Ouais. Bah, ils verront. Je crois qu'ils attendent le résultat de l'audit. Et puis
et
après,
ils disent bien que le résultat de l'audit, s'il n'a rien à se reprocher.
Ah, bah, ouais. Ouais,
pourquoi? C'est pour ça, je vous le dis. On verra. C'est juste pour nous calmer, mais ils vont laisser au pouvoir.
On verra. Merci en tout cas pour la. Pour le foot, rendez-vous la semaine prochaine.
Rendez-vous la semaine prochaine.
Et puis nous, on va écouter Yves Montand, La Bicyclette. Et puis ensuite, on enchaîne justement sur le sport cycliste avec notre invité, donc Tristan Auro, président du comité départemental donc 75 de Paris.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes, à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur, à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants. À bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.
Voilà, donc après le foot, le vélo, je l'ai dit avec Christian Auraud, donc le président du comité départemental. Alors, comment on aborde cette année 2023, Tristan, d'abord, bonne année, hein, et comment on aborde cette année pour le sport cycliste dans la capitale?
Ouais, bonne année à toi et bonne année à tous.
Hein. Ouais.
2023, c'est 2024 moins 1, donc on se prépare pour les Jeux Olympiques de Paris.
Ouais.
Cet événement, il permet quand même d'insuffler une belle dynamique dans tous les sports, et notamment dans le cyclisme, avec des athlètes qui se préparent pour les Jeux, et puis toutes les associations, tous les clubs amateurs derrière qui profitent de l'élan.
Alors, on colle bien l'actualité, parce que je crois que ça a été la présentation des clubs ce week-end. Hein.
Oui, alors ce week-end, c'était la présentation du Paris Cycliste Olympique, qui est le premier club de Paris, que j'ai aussi le plaisir de diriger.
C'est le plus ancien, non? C'est ça, non? Non. C'est pas lui qui est le plus ancien sur Paris, non?
Ouais, aujourd'hui, peux dire que c'est le club historique, c'est un club qui a 30 ans et qui est le résultat de la fusion de tous les clubs d'arrondissement, en fait, de l'époque. Donc c'est un club qui a 30 ans et qui a connu dans ses rangs notamment Jenny Longo, qui a été championne olympique à Atlanta sous les couleurs du Paris Cycliste Olympique. Et puis aujourd'hui, c'est le principal club à Paris avec 250 adhérents, sachant que sur Paris, c'est pas comme dans le foot, hein, t'as pas beaucoup de licenciés à la Fédération française de cyclisme, t'as beaucoup de pratiquants. Mais c'est un paradoxe, énormément de pratiquants.
Un sport de loisir, quoi.
Un sport de mobilité.
Prendre de licence, quoi.
Exactement, voilà. Et là, quand tu prends une licence, c'est pour participer à des compétitions, participer à des activités encadrées. Et il y a quand même moins d'adhérents qu'à la Fédération française de foot, par exemple.
Oui, c'est sûr. Alors, justement, comment Tristan Auraud, lui, débute dans le sport cycliste? Comment c'est venu cette passion? C'est le sport d'enfance ou il y en a eu d'autres avant? Je voyais parler du foot, vous aimez un peu le foot quand même.
Ouais, j'ai fait beaucoup de foot, moi je viens du 93, donc le sport numéro 1 c'était le foot dans la cour. Hein.
Puis foot, vélo, c'est les mêmes populations. Hein. Non, c'est vrai?
Je sais pas.
C'est des sports à essence populaire au départ.
C'est des sports populaires,
c'est
des sports populaires.
Dans le Nord, c'est le foot et le vélo, en Bretagne, c'est le foot et le vélo, c'est vrai.
Ouais. Alors, sauf que le foot c'est un sport co, et puis que le vélo c'est un sport individuel.
Qui peut être un sport collectif.
Qui se gagne en équipe. Donc moi j'ai commencé, c'était en 1997, et j'ai commencé à l'EC Aulnay avec notamment un gars qui s'appelle Christophe Riblon, qui a gagné plusieurs étapes sur le Tour, qui était mon coéquipier à l'époque. Et puis j'ai fait quelques années de jeunesse, et puis après j'ai vécu ma vie, et puis de jeune. Et donc comme le sport de cycliste est très exigeant, j'ai arrêté la compétition, et puis je l'ai repris il y a une douzaine d'années, et là je me suis investi dans le cyclisme à Paris.
Alors justement, Christophe Riblon, on a une belle anecdote, hein, parce qu'il y avait quelqu'un du foot justement qui m'avait dit, tu fais le Tour de France, est-ce que tu peux nous ramener un bidon? Et c'est Christophe Riblon en personne qui nous l'a donné.
Donc, très bien.
Voilà. Donc voilà. Alors justement, on s'investit d'abord en prenant une licence.
Ouais, on s'investit en prenant une licence dans un club pour trouver, pour trouver un encadrement. Hein. C'est comme dans tout sport, finalement, des éducateurs qui vont vous aider à progresser, et puis surtout pour les jeunes qui vont encadrer des sorties sur la voie publique. Parce que bon, quand on fait du vélo et qu'on est à 15, 16 ans, 13 ans et qu'on sort tout seul, pour circuler dans Paris et dans la, ouais, dans la banlieue, c'est très dangereux. Donc, signer dans un club de vélo, s'affilier à une fédé comme la Fédération Française de Cyclisme, et trouver un encadrement, trouver des éducateurs qui vous aident à pratiquer, à progresser en toute sécurité, avec le plaisir et puis derrière la performance ouais, derrière.
Alors, vous êtes combien de licenciés sur le vélo à Paris? Licenciés, ce compris de licence, hein, tout, alors, tout club et toute discipline, j'allais dire, confondue, parce ouais, qu'il y a le VTT, il y a aussi ouais, le cyclisme artistique, il y a éventuellement la piste.
Oui, ouais, alors, principalement sur route, hein, finalement, ouais, puisque les autres disciplines, dans l'ordre, après, il y a cyclo-cross, piste, et puis après, mmh, des disciplines VTT, BMX, et puis des disciplines plus confidentielles. Mais sur Paris, tu dois être à peine 1000 adhérents, donc ouais, c'est très confidentiel. Ouais, ouais. Par contre, encore une fois, tu as beaucoup de pratiquants. Et notre enjeu, nous, les clubs, qui soient affiliés à la Fédération Française de Cyclisme ou d'autres fédés, c'est d'attirer dans nos clubs, dans nos associations, tous ces pratiquants pour faire vivre notre pratique et notre sport. Parce que, en fait, quand tu pratiques tout seul, finalement, tu ne progresses pas, tu restes dans ton coin, tu peux t'affilier à quelques groupes comme ça, un peu sauvages, etc. Mais quand tu découvres ce que la pratique dans un club, tu vois beaucoup plus loin et tu découvres vraiment ce que le cyclisme peut t'apporter.
Ouais, alors, comment ils font ceux qui, justement, ont une licence à Paris? Parce que, bon, faire du vélo à Paris, c'est pas facile, c'est pas évident. D'abord, est-ce que c'est tous des Parisiens ou est-ce que c'est aussi les villages, les villages et les villes avoisinantes et les arrondissements et les départements avoisinants?
Ouais, je vais te donner l'exemple du Paris ouais, Cycliste Olympique. Ouais. On a 250 adhérents et sur ces 250 adhérents, on va avoir 70% qui viennent de Paris intramuros et 30% qui viennent des communes limitrophes, ah oui, voire même un peu au-delà pour notre
70%
équipe.
70% intramuros
ouais,
quand même.
Ouais, tout de même. Ouais. Alors, tu vois, ça va être collé, hein, Vincennes, Charenton, tu vois, ces choses-là, Pantin, etc. Et donc, pour répondre à ta question, c'est pas évident de faire du cyclisme à Paris, mais nous, on prouve le contraire. Et c'est pour ça que c'est intéressant de venir dans un club, parce qu'il y a plein d'astuces.
Alors justement, c'est quoi les astuces? Ceux qui, ce soir, écoutent, disent, tiens, je vais faire du vélo, je vais prendre une licence à Paris. C'est quoi les astuces? Parce qu'on imagine les cyclistes en train de prendre leur voiture, aller aux sorties de Paris, et puis voilà, se mettre dans un endroit, se donner rendez-vous, prendre le vélo, et puis voilà.
Ouais, alors,
que ce soit en Seine-et-Marne, en Essonne ou dans les Yvelines.
Bah, tu as plusieurs façons de le faire. Déjà, tu as deux anneaux fermés qui sont l'un à l'est, c'est le polygone de Vincennes, l'autre à l'ouest, c'est l'anneau de Longchamp, où tu tournes en rond, tu tournes vite. Il y en a qui ne s'en lassent pas, ils font des milliers de tours.
Oui, mais ça, c'est le cycle du loisir, plus que compétition, non?
Voilà. Ouais. Et puis après, quand tu as des spots aussi, il y en a qui sont moins connus. Par exemple, si tu veux aller rouler, faire de la vitesse, tu peux aller au marché des mines de Rungis. Tu vas te pointer le mardi ou le jeudi, tu vas trouver 300 mecs qui tournent comme ça. Donc ça, c'est des entraînements sportifs, etc. Et puis nous, qui sommes basés au Vélodrome de la Cipale dans le bois de Vincennes, on part de la Cipale et on va rouler en Seine-et-Marne au large, ou on va rouler en Chevreuse, et donc sur un circuit de 50, 80, 100 km. Non, moi j'emmène 40 gars. J'emmène 40 à 100 gars tous les dimanches du Vélodrome de la Cipale jusqu'à Trifouilly-les-Oies. Donc certes, il y a des feux rouges, il y a des voitures, etc. Mais tu peux prendre des pistes cyclables, tu peux prendre les bords de Marne, il y a des astuces. Il faut connaître les chemins, c'est tout.
Voilà. Antoine, ça t'inspire un commentaire?
Ouais, écoutez, moi, le seul vélo que je faisais, c'était pour aller au collège.
Oui, c'est sûr.
Mais je prends beaucoup de plaisir à suivre le Tour de France.
Oui.
Et un petit peu la Vuelta quand j'ai le temps. Mais c'est vrai que c'est un beau sport. J'imagine quand on en fait en club, on doit beaucoup en découvrir.
Bah, il va en parler. Hein, Valentin, toi, ça t'inspire le vélo, le Tour de France?
Eh bah, bien, écoute... Ouais.
C'est ton feuilleton de l'été?
À la base, non. Mais non. L'année dernière, enfin, un petit peu, je suivais quand même, mais un peu de loin. Et tu m'as recommandé vivement de regarder. Oui. Parce que, bah, normal, il faut s'intéresser à tout. Allez. Et j'ai vraiment pris du plaisir à regarder, à découvrir... à m'intéresser, même à m'abonner à des chaînes.
Va sur une étape un jour. Va sur une étape.
Le rendez-vous est pris. Ouais. Le rendez-vous est pris. Mmh.
Donc, effectivement, on peut d'ores et déjà encore vous rejoindre.
Ouais, tout à fait. Donc,
parce que c'est le début de saison, là. Donc,
Les compétitions sur route, elles vont démarrer au mois de mars.
Ouais, c'est ça, mais c'est pas trop tard pour rejoindre vos clubs.
Non, c'est pas trop tard. On a fait la majeure partie de notre vague d'adhésion 2023, mais on prend toujours des gars tout au long de l'année.
Alors, est-ce que c'est un sport qui est cher? Alors, vous allez me dire oui, parce qu'il y a un coût quand même. Les vélos aujourd'hui, ils sont hyper, hyper sophistiqués. C'est peut-être pas donné à tout le monde. Il y a le matériel aussi qu'on peut casser, malheureusement. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une aide des clubs?
Ouais, la réponse à ta question, ouais, c'est cher, c'est trop cher, c'est devenu trop cher. Ouais.
3 000, 4 000 euros un vélo?
Ouais, ça peut. Bon, ouais. Après, t'as l'occasion. Mais ouais. ce qui m'ennuie, moi, à titre personnel et professionnel là-dedans, c'est que à la base, le vélo, c'était un sport populaire.
Eh ben, c'est ça. Comme le foot, c'est le même milieu. Hein,
voilà,
vélo,
voilà. Ouais. Tout le monde pouvait quasiment s'acheter un vélo sans procurer un. Aujourd'hui, les prix ont été multipliés par 10. Et c'est vrai que c'est devenu, malheureusement, un sport, j'ai envie de dire, un sport de riche. Et donc, ça nous coupe de pas mal de pratiquants. Nous, on va dans les écoles, dans toutes les écoles de Paris pour enseigner le savoir rouler à vélo. Donc, on apprend aux gamins de CM1. Voilà. Et d'apprendre le code de la route, à découvrir le vélo. Et il y en a plein, quand on va dans les quartiers, on comprend que là, ils n'ont pas les moyens. Donc, nous, ce qu'on fait, on a des vélos en location et on propose des locations à 20 euros par mois. Donc, sur l'année, tu peux, tu vois, pour 240 euros, avoir un vélo pour ton gamin à ta taille. Et puis, la saison d'après, quand il aura pris 20 cm, il pourra, au lieu de devoir revendre et d'en racheter un, il pourra en relouer un. Mais c'est vrai que c'est un sport qui est d'accès cher et c'est un vrai enjeu qu'on a là.
Oui. Déjà, la licence, ça coûte combien?
La licence, ça dépend de ta catégorie. Oui. Ça va aller de 60 euros pour les jeunes. Donc, c'est pas très cher, la licence. Non, hein, non. D'accord. Jusqu'à, quand tu es en élite, athlète de haut niveau, tu vas payer 200 euros. Mais là, à la limite, tu es athlète. Quoi, tu vois. Donc, la licence est accessible.
Pour toutes les fédérations maintenant on peut être multifédération?
Ouais, t'as plusieurs fédérations. T'as bien sûr la FFC, qui est la fédération olympique, mais t'as la LUFOLEP, les fédérations affinitaires, la FFGT, la Fédération française de vélo, qui est celle de cyclotourisme. Donc, avec des licences qui vont varier, je dirais, entre 30 et 60 euros pour les primo-accédants, on va dire.
Et alors ensuite, donc, on prend une licence, donc on part rouler dans un club, donc ça commence là des mois de décembre, des mois de janvier, je crois, les sorties club.
Justement,
on ruse pour sortir de la capitale.
Exactement.
Voilà. Et les premières courses au mois de mars, comment ça se passe? Qui s'engage? Comment marchent les engagements?
Alors c'est marrant, tu as des courses dans toute l'île de France, pas trop dans Paris malheureusement, on est les derniers à faire des courses dans Paris, on y reviendra, mais plutôt en banlieue et grande de banlieue et Seine-et-Marne, Yvelines, etc. Et tous les dimanches, tu as une offre de course selon ta catégorie, que tu sois jeune ou senior ou très fort. Très fort, tu peux même aller partout en France et tu vas t'engager. C'est un peu comme un prix de F1, tu vas t'engager, tu vas payer des droits d'engagement. En général, c'est le club qui te le paye pour t'aligner sur la compétition. Et là, tu vas faire une course de vélo avec 100 gars qui sont dans ta catégorie. Et puis, tu vas te mettre minable pour soit la gagner, soit tenir dans les roues, etc.
Des courses de combien de kilomètres?
Ça dépend. Ouais, chez les jeunes, par exemple, je te donne un exemple, chez les cadets, c'est 50 km. Et puis, chez les seniors, ça va être de 80 à 100 km. Donc, c'est en termes d'effort, c'est 1h30 d'effort pour les cadets ou les seniors. En premier niveau, jusqu'à 2h, 2h30 d'effort. Donc c'est un sport qui est un sport d'endurance, hein, finalement, qui mêle endurance et intensité.
Alors justement, on parlait que ce sport était très cher. Bon, il y a certes le vélo, l'équipement, la bonnetterie, ça a beaucoup changé. Et puis, il faut aller en Seine-et-Marne, il faut aller dans les Yvelines, il faut aller dans les Saônes courir. Donc il y a le coût de l'essence.
Ouais, tout à fait.
C'est pas un sport, Donc ça aussi, ça peut être un désavantage pour certains parents.
Ouais, le coût de l'essence, le transport en voiture. Alors, quand tu signes, c'est pareil. Quand tu signes dans un club, on a une flotte de véhicules, et donc on emmène pas tout le monde. On n'a pas le bus du PSG, mais on emmène les jeunes. On emmène un certain nombre de compétiteurs sur les compétitions et c'est le club qui paye l'essence. Donc, c'est là aussi rejoindre un club, que ce soit le Paris Cycliste Olympique ou un autre, c'est possible, c'est profiter de la logistique qu'offre le club. Bien qu'il faille prévoir, c'est un sport à l'ancienne, le vélo. Tu pars avec ta voiture, tu mets ton vélo dans la voiture et tu vas à la station, tu vas à la pompe. Hein.
Mais ça peut être un désavantage pour quelqu'un, pour un jeune qui dirait à ses parents, je veux faire du vélo.
C'est plus cher que la natation.
Oui, non, c'est sûr. Non, mais c'est pour ça. Il faut le dire, malheureusement, c'est un des problèmes de votre sport, quoi.
Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que nous, on propose pas que d'aller faire des compétitions à droite à gauche. En fait, on propose des entraînements. Oui. Et quand je te dis que nous, on part de la CIPAL, Moi, j'ai 100 gars sur le parking qui viennent. Ils viennent de leur maison. Ils n'ont pas forcément de voiture. Ils viennent participer à un entraînement sportif. Mmh. Et on part sur un entraînement le dimanche ou en semaine, etc. On va les emmener en Espagne pour un stage au soleil. Et bah, les gars, ils sont contents. Ils vont être au soleil en février à faire que du vélo. Les doigts de pied en éventail. Mmh. Et donc, voilà, il y a d'autres façons aussi. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire évoluer notre sport pour l'ouvrir à d'autres pratiques et ne pas être tributaire du litre de gasoil.
Bah oui, non, c'est sûr. Alors, il y a aussi, naturellement, le fait d'organiser. Est-ce que sur Paris, il y a des courses intramuros ? On disait qu'il y en a que deux.
Il y en a deux et demi, il y en a trois. Il y a l'arrivée des Champs. Il y a la ville de Tour de France sur les Champs. Et puis, il y a le Grand Prix de la Tour Montparnasse Infernale, comme on l'appelle, qui est organisé par notre club, le Paris Cycliste Olympique. Au pied de la Tour Montparnasse, qui est une course élite de haut niveau.
C'est quand ça arrive, c'est au mois de juin.
C'est en général le deuxième mercredi du mois de juin.
Ça doit faire drôle de faire du vélo. Que dans Paris, les rues dégagées.
C'est canon, c'est une vraie kermesse parce qu'on passe devant les bars, il y a une ambiance de feu. Et puis on organise une autre journée au polygone de Vincennes, justement, au profit d'une association de la PHP, de l'hôpital Trousseau, qui œuvre à améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants contre cancer. Donc c'est une course. Et on organise d'autres courses, d'autres compétitions, la Cipalienne, par exemple, au vélodrome de la Cipale, où on fait des initiations pour les filles. Pour féminiser le club sur le vélodrome de la Cipale. Donc, on se bouge pour réintroduire des compétitions de vélo dans Paris, parce que moi, j'ai 40 ans, mais quand j'avais 18, 20 ans, je faisais beaucoup de compétitions dans Paris, il y en avait beaucoup plus. Et donc, c'est notre mission d'animer tout ça.
Montmartre, peut-être un jour, la côte, là.
Ouais, Montmartre ou Ménilmontant.
Belle course de côte. Hein.
Ouais, Ménilmontant dans les tuyaux. Avec le maire du 20e.
Bah oui. Et est-ce qu'un jour un grand critérium sur Paris, ça pourrait se faire ?
Ouais, ça.
Justement, on parlait des arrivées du Tour de France. Est-ce qu'un critérium après le Tour de France, quelques jours après sur Paris, ça pourrait se faire ?
Ouais, ça pourrait se faire, ou juste avant l'arrivée du Tour, ça pourrait se faire.
Ouais.
Et quand je te parle de la dynamique des Jeux Olympiques, c'est une rampe de lancement pour amener ce type de projet-là. Et on le voit avec le plan vélo quand même. Paris a mis 400 millions d'euros dans le plan vélo sur les deux mandatures Hidalgo. Donc Paris s'intéresse au développement du vélo, et donc ça doit être en priorité de la mobilité, des pistes cyclables, etc., mais ça doit être aussi un soutien aux associations, un soutien à la pratique du sport de compétition ou du sport, je dirais, d'entraînement, de passion, etc.
Alors justement, le plan vélo, c'est quoi ? On en parlait un peu, on dit que vous y contribuez en tant que président du comité départemental et aussi en tant que manager du Paris Cycliste Olympique. C'est quoi le plan vélo ? Bon, certes, c'est favoriser les déplacements de Paris dans Paris à vélo, mais c'est peut-être pas que ça.
Non, ce qui coûte le plus cher, c'est bien sûr l'aménagement. Hein. C'est la voirie, c'est les pistes cyclables. Mais on voit quand même qu'il y a un résultat. Hein. Moi, je travaille dans Paris. Je sais
qu'il y a beaucoup de critiques quand même.
Il y a beaucoup de critiques qui sont légitimes. Mais il y a en même temps, c'est ce que je disais, quand tu as introduit le moteur à explosion dans les villes de Paris, et que le moteur a remplacé la diligence, il y avait un bordel. Les gens se roulaient dessus. Donc, il faut que cette vélorution, elle fasse son œuvre. Bon. Et puis, il y a dans le plan Paris tout un soutien à l'écosystème, aux associations, aux commerces liés au vélo. Moi qui représente le monde associatif, on est soutenu dans le cadre du plan vélo pour former, comme je te le disais, les élèves de CM1, CM2 au savoir rouler à vélo, parce qu'ils ne savent pas pédaler. On fait des enquêtes, t'as un tiers qui ne savent pas se déplacer à vélo, qui 100% qui ne connaissent pas le code de la route. Et donc nous, chaque gamin, on a formé 1500 écoliers au savoir rouler à vélo qui aujourd'hui savent ce que c'est que le code de la route et savent se déplacer à vélo sur la voie publique. D'accord ? Et ces jeunes-là, c'est peut-être demain les cyclistes de demain, et leurs parents sont aussi à l'écoute de tout ce qu'on fait.
Oui, parce qu'il y a un véritable problème. Alors, notamment aussi les baladeurs, tout ça, vous leur recommandez d'écouter le baladeur à vélo ? Non, mais justement, parce que pour se déplacer, on en voit souvent.
Non, bien sûr, bien sûr. Mais nous, on lutte contre ça. On milite pour le port du casque obligatoire. Pour les adultes.
Je pense que ça, c'est rentré maintenant.
Donc, il faut continuer. On milite pour le partage de la route en bonne intelligence avec les automobilistes. Ouais. Et le port du baladeur, non, c'est pas souhaitable.
Alors, vous allez dans les écoles. Comment ça se passe ?
Oui, on va dans les écoles de tout Paris. On débarque avec nos vélos, nos casques, nos feux rouges, et on forme des classes. Donc chaque élève, chaque écolier bénéficie d'une formation de 10 heures. Et à l'issue de cette formation, il reçoit un diplôme qui est validé par le ministère des Sports, puisqu'il est officiel, hein, ce diplôme. On fait une petite remise des diplômes au Vélodrome de la Cipale ou dans l'école. Et le gamin, il ressort avec une formation basique, mais qui est très utile quoi, pour son futur.
Oui, parce qu'on parlait justement... Bon, le vélo, c'est un sport dur, c'est un sport onéreux, mais il y a aussi un autre problème, on se déplace beaucoup, il y a un autre problème, c'est effectivement, on va s'entraîner, on prend la route, la voie publique, on part pendant 3 heures, 4 heures. Ça aussi, ça peut faire peur pour des parents.
Ouais, 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 la cohabitation avec les automobilistes, elle est devenue compliquée. Plus qu'avant, hein, parce qu'il y a de l'agressivité. Ouais. Maintenant, moi je pense que nous, on n'est pas en opposition aux automobilistes. On dit que cohabiter, c'est communiquer.
Il faut un peu de sagesse des deux côtés.
Exactement.
Voilà, c'est ça. Hein, parce que bon, c'est vrai qu'on voit des automobilistes par réglo parfois, mais on voit aussi des cyclistes qui, bon.
Bien sûr.
Hein, qui prennent le milieu de la route, ça peut poser problème.
Exactement. Et donc nous, on passe notre temps à installer cette cohabitation. Mais pour autant, voilà, on va pas s'arrêter parce que y a une cohabitation difficile avec les automobilistes. Le développement de la mobilité par le vélo dans les milieux urbains, c'est une évidence. Donc va falloir l'accepter.
Non, parce que même dans des régions beaucoup plus rurales, c'est pareil, il y a le même problème. Hein. On voit des fois des altercations entre automobilistes et cyclistes parce que voilà, chacun ne respecte pas l'autre. Quoi.
Absolument. Et parfois, je vais même te dire, c'est plus grave en province que dans Paris. Et ça, pour les parents, ça peut être un problème. Oui.
Et ça, pour les parents, savoir son enfant part faire, prendre la route sur le vélo ou pas. En plus, c'est un sport d'endurance, donc ça dure 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ça peut être un des avantages pour pratiquer ce sport.
Dans une ville comme Paris, en l'an 2000, quand on avait la voie de bus et de vélo qui étaient réunis, c'était on trouvait que c'était magnifique, c'était génial, c'était une avancée. Malheureusement, maintenant, on voit qu'il y a de plus en plus de cyclistes qui peuvent se faire renverser dans les voies de bus. Et on voit des arrondissements ici, même comme le 16e arrondissement, où il y a presque... Il y a très très peu de pistes cyclables, elles sont très mal gérées, très mal mises, donc c'est vrai que c'est un stress quotidien pour les familles, pour les parents comme tu dis, et c'est même moi qui utilise mon vélo sur Paris, c'est des fois c'est la guerre, c'est pas très simple, c'est vraiment de plus en plus compliqué.
Et comme je disais, cette vélorution, elle est en marche et il y a des moments de frottement, mais si on pense un peu sur le temps long. La cohabitation va se faire, je pense. Et juste pour conclure sur ce sujet-là, quand tu roules en peloton, t'es beaucoup moins vulnérable que quand tu roules tout seul. C'est pour ça que c'est bien d'être dans un club quel qu'il soit, parce que je peux vous dire que moi j'en ai fait des sorties encadrées, j'en ai vu des automobilistes mal embouchés, etc. Mais ils sont quand même moins agressifs quand t'es une bande de 30.
Oui, parce que...
Oui, c'est sûr. Mais il faut qu'ils prennent la ville de Paris. Je pense qu'il faut prendre exemple sur Copenhague ou encore Amsterdam.
J'allais citer Amsterdam, Copenhague. Ça, c'est des pistes de vélo, quoi.
Ah, moi, je suis allé à Amsterdam, c'est génial. C'est devenu... Bon, ils savent différencier le touriste du vrai... vrai néerlandais qui vit ici, mais c'est vrai que c'est un bonheur parce que t'as pas tous ces bus, t'es pas dans la voie des bus constamment, t'as pas le stress de te retourner, il faut que j'aille en face, donc il faut que je fasse le tour parce que aller des balles dégagées, parce qu'il y a des travaux et tout. Non, c'est
pas la même pratique quand même.
C'est pas la même pratique,
c'est
mais...
plus encadré, plus sportif.
Je pense que surtout l'idée de favoriser la mobilité des vélos en ville. Dans les villes que tu cites, Copenhague ou Amsterdam ou en Belgique, elle est plus ancienne qu'en France.
Ouais.
Et donc, on a du retard. On a du retard. Et donc là, on est en train de le combler. Je trouve que la ville de Paris fait des choses intéressantes dans le domaine. Et voilà, il faut que le temps se fasse. Il faut laisser le temps au temps là-dessus. Mais je trouve qu'on va dans le bon sens. Je trouve qu'on va dans le bon sens. Mais on a beaucoup de retard sur pas mal de pays.
Surtout si plus de gens se mettent au vélo, se déplacent plus en vélo, ils vont plus vouloir avoir une meilleure performance, se développer.
Peut-être dans 20 ans, dans 30 ans.
Et là, peut-être dans 20-30 ans, on aura tous un club de vélo, il faut espérer.
Ouais, mais tout ça, mais tu sais, moi, encore une fois, quand je vois la différence, j'en parlais à Philippe, j'étais rue de Patay, là, il y a 10-12 ans, j'habitais là-bas. Et aujourd'hui, je suis parti en banlieue, plus loin. Quand je retourne bosser à Paris, je vois que c'est complètement transformé. Il y a 1000 fois plus de cyclistes. Ça va dans tous les sens. C'est un peu le bordel. Mais c'est en train de se transformer complètement tout ça, complètement.
Et sinon, quand on fait de la, du sport cycliste, c'est combien d'heures par semaine d'entraînement? On prend la route pour 2 heures, 3 heures, 4 heures, parfois 3 fois par semaine?
Ouais, alors ça, c'est comme...
Ça dépend de son niveau.
Ouais, voilà, c'est toi qui fais ta recette, si tu veux. Si tu veux atteindre un niveau de performance élevé, il faut beaucoup s'entraîner. Et c'est vrai que le cyclisme est un sport chronophage. Tu ne vas pas faire 30 minutes de vélo et... Non, ça ne marche pas. Ouais. Donc, quand tu prends le vélo, il faut prendre le vélo au moins une heure et demie, d'accord? Mais après, tu peux le faire chez toi sur un home trainer.
Oui, mais enfin, ça remplace
tu
pas.
Tu peux.
Ah bon.
Ouais, tu peux faire des séances très, très spécifiques.
Il n'y a pas de vent sur le trainer.
Oui, mais tu peux faire des intensités, etc.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, voilà, ça dépend ce que tu veux atteindre comme niveau de performance. Ce qui est sûr, c'est que quand tu veux être performant au niveau régional ou national, là, il faut beaucoup rouler. Et on a un problème, nous, avec nos athlètes de haut niveau, comme beaucoup d'autres sports. C'est que ce sont des athlètes de haut niveau, mais qui ne sont pas professionnels et qui passent tellement de temps à s'entraîner que ça empiète sur leur vie professionnelle et ils n'ont pas la compensation financière derrière. Ouais.
On l'a vu pour des pistards français, à Saint-Quentin, François Pergis ou tout ça. On l'a vu. Il y avait un véritable problème. Ils consacraient tout le temps à leur sport et puis il fallait qu'ils vivent.
Il faut qu'ils vivent et il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils s'entraînent. Et donc là, on est complètement en retard. Alors là, pour le coup, encore plus en retard que les pistes cyclables. Mmh. Et là, on a un souci pour les Jeux. Mais que ce soit dans le vélo ou dans d'autres sports où il n'y a pas beaucoup d'argent, le taekwondo, le judo, etc., les athlètes de haut niveau n'ont pas les moyens de s'entraîner correctement.
Ouais. Et pourtant, on arrive à avoir des résultats. C'est ça qui est sidérant.
On pourrait en avoir beaucoup plus.
Oui, non, mais malgré tout.
Parce qu'on a des gens passionnés, des gens qui se déchirent, mais on pourrait en avoir beaucoup plus.
Ouais. Alors justement, les Jeux Olympiques, les deux épreuves de vélo, contre la montre et puis sur route, que ce soit femmes ou hommes, partiront de Paris et arriveront à Paris.
Oui, tout à fait.
On ne connaît pas encore complètement le parcours, mais bon, ça sera bientôt présenté.
Ouais, ça sera bientôt présenté et moi j'ai pas de scoop là-dessus et puis je rajouterai quand même, tu dis hommes et femmes et il faut rajouter les paralympiques aussi.
Oui, bien sûr.
C'est important parce que
c'est hommes et femmes aussi.
Hommes et femmes, exactement. Ça va être une super fête et je pense que sur piste, on sera pas mal.
Oui, alors sur la piste, effectivement, ça fait partie des disciplines qu'on... peut-être pas autant de moyens que certains pays et qui ont des résultats complètement excellents.
Ouais, qui ont des résultats. Après, il faudra voir au jeu quand même parce qu'il y a des pays qui ont le chic pour, notamment par exemple l'Angleterre ou l'Australie, qui ont le chic pour être absent des championnats du monde et d'être présent au JO. Donc à nous d'être, nous on a fait une belle moisson au championnat du monde, à nous d'être présent au JO. Donc ça se prépare parce que les JO c'est un niveau encore au-dessus que les championnats du monde.
Ouais, puis il y a le côté émotionnel quand même.
Le côté émotionnel et puis les autres sont mieux préparés.
Il faut gérer ça.
Donc voilà, bon après moi je fais confiance à la DTN de la FFC et à Grégory Bauger que je connais bien et que je salue s'il nous écoute pour bien préparer les athlètes à ce rendez-vous-là.
C'est vrai qu'il y a un super outil, on a eu souvent l'occasion de s'y rendre à Saint-Quentin, c'est un outil qui est merveilleux, c'est le Clairefontaine du foot pour le vélo.
Ouais, c'est un super outil, c'est un superbe vélodrome. Je tiens à dire quand même qu'il y en a un autre qui d'ailleurs c'est là que est le siège du Paris Cyclisme Olympique, c'est le vélodrome de la Cipale.
Oui, alors on pensait que ça fonctionnait plus, on pensait que c'était désuet, donc ça marche quand même.
Il y a
des entraînements, il y a des compétitions.
Bien sûr,
aussi,
donc c'est vrai que c'est. Alors, la Cipale, c'est un vieux truc, c'est historique.
Tour de France, il est arrivé là.
Tour de France et d'Imerx, etc. C'est tombé un petit peu en désuétude à un moment. Et justement, grâce à des adhérents du club et grâce à la ville, on fait revivre ça. On fait revivre cet outil et il y a des compétitions et des animations. Il y a les mercredis populaires, par exemple, qu'on organise tous les mercredis pour les jeunes. Au beau temps parce que c'est un vélodrome découvert donc il faut qu'il fasse beau quand même.
C'est ça le problème.
Et il y a des compétitions également pour faire revivre ce truc-là, cet outil-là. Et on a des grands projets avec la ville pour en faire une vraie maison du vélo, la maison de vélo de Paris, qui sera au Vélodrome de la Cipale. Donc là, là-dessus, les élites nous étudient bien. Ça va être un beau truc.
Le vélo féminin aussi, ça plaît, ça fonctionne. Il y a eu un premier tour féminin cet été. Ça marche. Il y a de plus en plus de jeunes filles et jeunes femmes qui viennent faire du... On parlait de Gianni Longo, ça a été un modèle très longtemps, mais ça suscite des vocations aussi maintenant.
Ça remarche, chez les jeunes femmes. C'est de nouveau sur une belle pente parce qu'il y avait eu un trou.
Bon, ça va avec l'ensemble du développement du sport féminin aussi.
Exactement, et puis le Tour de France qui a lancé le Tour de France féminin, c'est une locomotive énorme. Marion Rousse, elle fait un travail admirable. Le cyclisme féminin, il y a des équipes, il y a une belle dynamique, il y a des équipes qui se construisent, c'est intéressant. À Aubervilliers, par exemple, pour citer au Sprinter Club féminin à Paris,
il y a un club qui
dans le 14e qui marche bien, qui est au niveau amateur, à un niveau amateur de division nationale 2 qui est correct. Et puis nous, on a des grands projets au niveau du Paris Cycliste Olympique, même si on est en retard. Ce qui manque encore, c'est finalement, il n'y a pas assez de pratiquantes encore au niveau du cyclisme. Donc, la fédération et puis les clubs, c'est un enjeu pour nous de développer le truc. Donc il faut continuer d'aller dans les écoles, il faut continuer de parler aux jeunes filles pour les mettre sur un vélo, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas.
Et puis, il faut peut-être aussi des icônes, comme dans tout sport. Alors, chez les hommes, il y a Alaphilippe, il y aura bientôt plus Pinot, mais chez les filles, peut-être Mathilde Gros.
Ouais, Mathilde Gros qui fait des superbes performances sur la piste. Et puis je citais Marion Rousse. Marion Rousse, c'est bien ce qu'elle fait parce qu'elle est médiatique, parce qu'elle a été.
C'est une belle ambassadrice.
C'est une belle ambassadrice du cyclisme féminin. Donc, on va suivre son exemple. C'est bien ce qu'elle fait.
Très bien. Allez, on va marquer la deuxième pause. Tiens, ça a été choisi par vous, donc je vous laisse l'annoncer. Comme ça,
c'est une chanson qui s'appelle It's a Long Road.
C'est une longue route. Ouais, c'est ça.
De Jerry Goldsmith. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est le morceau épilogue du film Rambo, le 1.
Ah d'accord. Allez, on y va.
Le vrai.
It's a long road when you're on your own, and it hurts when they tear your dreams apart. And every right outside your front door.
Voilà, émission que vous pourrez naturellement réécouter en podcast. Hein, toutes les émissions depuis le début de cette saison, sur le Mondial, sur la rétro de la semaine dernière, et puis toutes celles aussi de la saison passée, pas de problème. Et la vôtre, on pourra aussi très rapidement la réécouter. Il y a des disciplines annexes dans le vélo, le VTT, le BMX, le vélo artistique. Ça marche bien ?
Alors... Il y en a qui marchent mieux que d'autres.
Hein. C'est un autre monde.
Il y en a qui marchent mieux que d'autres. Le VTT, ça marche très bien.
Oui.
On l'a vu au championnat du monde, là, où la France a brillé. Et puis, il y a plein de pratiquants. Le VTT, c'est un sport d'événement.
Et de la route, on vient aussi au VTT. Parce que ça se fait beaucoup pour le cyclocross. Où c'est des routiers qui font du cyclocross l'hiver. Pour les pistards aussi, il y a aussi beaucoup de routiers qui font la piste, même si certains se spécialisent. Pour le VTT, c'est pareil, on peut faire route VTT.
Ah ouais, ouais. On peut faire VTT route. Hein. Jean-Christophe Perrault, qui avait fait deuxième du tour, il venait du VTT. Absalon, pareil, il faisait les deux. Le BMX, ça marche de mieux en mieux, parce que voilà, ça attire, etc.
Ça, on se spécialise plus.
Là, c'est vraiment... Et puis, t'as des disciplines, mais que je qualifierais de confidentielles, cyclisme artistique,
Le polo-vélo. On parlait de foot tout à l'heure.
Voilà. Et donc, qui sont vraiment des disciplines confidentielles. Mais qui peut-être un jour se développeront. Je ne sais pas.
Alors, on se doute que le vélo, c'est un sport où on perd beaucoup de poids. Hein. On voit les cyclistes ne sont plus très épais maintenant.
On prend du muscle aussi, j'imagine.
Oui, j'ai l'impression qu'on en prend un petit peu moins.
Moi, j'ai l'impression que je prends du poids.
Non, mais c'est vrai. Si on veut perdre du poids.
Le poids est l'ennemi du coureur, mon cher Philippe.
Vélo, je sais, ouais, pas, ouais.
Voilà, donc le poids est l'ennemi du coureur. Hein, ouais. Donc effectivement, le poids, ça compte beaucoup. Et voilà, alors ce qu'on compte. L'étalon, c'est ce qu'on appelle les watts par kilo. Donc c'est ta puissance divisé par ton poids et le nombre de watts que tu développes par kilo. Mmh.
Voilà. Ouais. Tous les sportifs maintenant sont bien suivis dans le vélo, comme en course à pied, comme partout, hein, par rapport à il y a 30-40 ans.
Ah ouais, tout à fait. Il y a des entraîneurs, il y a de la diététique, il y a des analyses partout, de data, il y a des appareils numériques, des plateformes d'entraînement.
Et puis je crois qu'on arrête pratiquement plus, si peut-être un peu en novembre, mais après, maintenant, de moins en moins, on coupe maintenant.
De moins en moins, on coupe, on coupe moins longtemps, mais on coupe. Comme tu dis, au mois de novembre, c'est bien de couper parce que c'est quand même, quand tu as fini, je ne sais pas si tu es au niveau, tu as fait 30 000 bornes dans l'année, tu as envie un petit peu de couper quand même.
Ouais.
Et ça fait du bien.
Ouais. Alors, la saison cycliste professionnelle, elle va repartir bientôt, même si je crois que les premières courses ont commencé, mais enfin, tant qu'il n'y a pas Paris-Nice, les choses sérieuses n'ont pas commencé. Comment on peut voir cette saison de vélo? On a une génération plutôt sympa et talentueuse. Il y a de très belles courses. Hein.
Ouais, alors...
On passe à l'offensive.
Ouais, il y a des jeunes Français qui arrivent. Ouais. J'ai envie de dire, il faut qu'ils confirment. Il faut qu'ils confirment. On a des belles équipes au niveau national, FDJ, Cofidis, Arkea, qui ont fait des belles choses, AG2R évidemment. Maintenant, on attend quand même que des Français brillent, gagnent. On a connu quand même des années... je vais pas te.
Les Bernard Hinault, les Laurent Fignon, avant les Bernard Tenet,
Richard Viroc, Laurent Jalabert. Et donc là, il nous manque encore peut-être des Français qui cartonnent vraiment.
Il y a Julien Alaphilippe, un peu.
Derrière Julien, Julien. Et Julien, il est au. Julien, il aborde une saison compliquée parce que l'an dernier, ça a été la catastrophe. Pour lui, il n'a pas eu de chance.
Son patron lui a pas fait cadeau dans ses déclarations là.
Son patron lui met une grosse pression. Et donc, on va voir. On va voir. Après, moi, je pense qu'il sera au rendez-vous.
Ouais. David Godu aussi, qui avait fait un beau Tour de France.
David Godu, qui est un pur grimpeur. Et donc, sur des parcours... on a vu, là, le parcours va peut-être l'avantager. Donc, David Godu, t'as Benoît Cosnefroy, qui est pas mal.
Et puis, Thibaut Pinot, qui a dit cette semaine que c'était pour lui l'ADR.
Ouais, et puis assez jeune.
Ça va
peut-être
le libérer psychologiquement. Hein.
Il va peut-être
gagner une ou deux étapes sur le tour, à nouveau.
Ah, cette année, peut-être. Thibaut, c'est une légende du vélo, quand même, du vélo français. Il a un palmarès.
PSG,
C'est marrant parce que ce mec-là, il a une image un peu de loser, mais il a quand même gagné un sacré paquet de grandes courses. Et il prend sa retraite à seulement 30 ans. Il a à peine 30 ans. Et donc c'est peu hein, pour un cycliste. Quand on voit que, par exemple, quelqu'un comme Valverde qui gagne à 42 ans.
Il y a une sacrée génération qui vient de s'en aller, là. Nibali, ouais. Valverde.
Regarde, t'as des jeunes, ouais. Evenepoel, Pogacar, Vingegaard
et tout.
On a le sentiment que dans le vélo, c'est un petit peu comme dans le sport en général. Le foot, c'est pareil. Les jeunes sont de plus en plus précoces dans les résultats. Non, c'est vrai. Hein.
Ouais, c'est vrai. Et je pense que ça, c'est aussi le système sportif, médiatico-sportif, qui est le sport business. Ouais. On veut des résultats de plus en plus tôt. Moi, je pense, à titre personnel, que c'est une connerie. Mmh. Et donc, il faut laisser à des gamins de 19 ans qui sortent des juniors le temps de faire leur vie, de suivre des études en même temps, le temps de grandir. Voilà. Quand tu fais d'un gamin de 19 ans un professionnel, je ne parle même pas du foot, tu le tues. Mmh. Et donc, en fait, bien sûr qu'il y en a toujours un ou deux qui va émerger, mais quid des autres.
Mmh. Mmh. Et Evenepoel, c'est un parcours qui est fabuleux quand même. Il a failli être pro de foot. Et les champions cyclistes. C'est vrai.
C'est un extraterrestre. Après, totalement hors sol.
On va voir comment ça va se passer. Ouais,
il y en a un sur un
dans
million.
Les années qui arrivent,
Et là-dessus, ce qui est dommage, c'est que tout le monde veut faire du Evenepoel. Mais Evenepoel, t'en as un par tous les 30 ans, comme tu dis. Et donc, c'est pas parce que t'as un Evenepoel qui sort que en France, tous les clubs vont sortir un Evenepoel.
Le
problème, c'est qu'ils ont forcément cette image que ça, c'est possible. Si c'est possible une fois, ils disent que c'est forcément reproduisible. Et on a l'effet Mbappé, on a l'effet.
Mais c'est ça, ces dans tous les sports, on voit
on
des jeunes qui arrivent.
Alcaraz, même Nadal, quand il était sorti à l'époque.
Dans tous les sports, maintenant, on a des résultats de plus en plus jeunes.
Même les jeunes en F2, F3, maintenant, en Formule 1, c'est forcément. Ils sont jeunes, ils peuvent monter de plus en plus, on peut les surclasser avec Verstappen. Non, chacun va avoir son rythme. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est l'argent, c'est le business. Le sport est devenu du business.
En tout cas, des coureurs qui, on a le sentiment, aujourd'hui, se respécialisent peut-être un peu moins. On voit des Pogacar, par exemple, qui font l'ensemble de la saison. C'était plus qu'à un moment dans le vélo.
Alors ça, c'était la jurisprudence Armstrong, voire Indurain,
Ça avait commencé pour Greg LeMond un peu.
Greg LeMond aussi. Ouais. Donc là, c'est ça qui est intéressant quand même au niveau sportif, spectacle, c'est de voir ces champions-là qui vont faire le tour et puis qui vont aller sur des classiques tout au long de la saison. Donc ça, c'est plutôt une bonne évolution, je trouve.
Alors on va finir quand même sur la mauvaise nouvelle, l'équipe Bbox Hotel.
BNB Hotel.
Oui, BNB Hotel qui s'arrête définitivement. Ils avaient un projet avec la ville de Paris et puis on a été surpris d'apprendre que l'équipe disparaissait.
Oui, l'équipe de Jérôme Pinault. Ouais. Donc c'est dommage pour les dirigeants, les employés, les coureurs, dont certains se retrouvent au chômage. Donc oui, il y avait ce projet d'équipe pro avec la ville de Paris qui n'a pas pu aller à son terme.
Qu'est-ce qui a pas marché?
Écoute, moi, je sais qu'on a été associé aux discussions puisqu'on était sur la partie réserve, académie, etc. Ce qui n'allait pas, de mon point de vue, c'était le fait que l'académie, dans le projet de Jérôme Pinault, il voulait une équipe basée à la fois en Bretagne et à Paris. Ça ne marchait pas. Non, ça, c'est pas possible.
Il aurait fallu rester à Paris, quoi.
Voilà, soit c'est la Bretagne, Paris. Et donc, il n'a pas réussi à choisir. Et donc, du coup, son projet n'a pas pu capoter à cause de ça. Il n'a pas trouvé les partenaires. Maintenant, nous, derrière... Qu'est-ce qu'on a fait? Comme on avait déjà ce projet d'équipe pro dans notre projet sportif, on va le reprendre puisqu'on a vu qu'il y avait un intérêt de la ville qui jusque-là...
Quand même. Donc ça veut dire qu'il y a une possibilité un jour de revoir une équipe pro cycliste à Paris.
Oui, on reprend le projet très officiellement avec le soutien de la ville qui a pris acte de l'arrêt de l'équipe BNP, un projet d'équipe pro moins ambitieux, d'équipe continentale hommes et filles. Et dont les filles ont pour objectif de faire le Tour de France féminin et l'objectif c'est 2024 dans l'idéal, peut-être 2025 si on n'arrive pas d'ici là, mais on a des discussions intéressantes avec des partenaires majeurs. Pour info, on cherche entre 2 et 4 millions d'euros.
D'accord. Ok. Rien n'est quand même perdu. Non. Il y a le foot, il y aura peut-être le vélo, et il y a aussi le basket et le volley.
Très bonne transition.
C'est ça. Alors, où en est-on justement? 17e journée. On va quand même rappeler donc les résultats. Nanterre qui a gagné 105-93 dans un haut lieu du basket qui est Limoges. Hein. Victoire aussi de Paris Paris Basket qui a battu Strasbourg 115-84 et puis Boulogne-Levallois qui va gagner à Dijon 103-94. Donc Monaco en tête avec 82,4. Deuxième Boulogne-Levallois 76,5. Et puis neuvième, on a Paris, Roanne et Strasbourg 47,1. Et douzième, Nanterre avec Gravelines Dunkerque 41,2. Voilà.
Bah écoute Philippe, oui. Très bon match du Paris Basket.
Oui.
C'est dans, à partir du troisième quart que ça s'est vraiment débouché pour eux. Un très bon Tyron Wallace, qui est un ancien joueur d'Atlanta, ancien joueur des Clippers et même de Minnesota. Donc il connaît très bien la NBA, il connaît le jeu rapide et ça, c'est ce qui a marqué. Il a marqué 31 points hier. Et c'était un match en couleur. On a eu très bonne défense, beaucoup de récupération, ce qui a permis au Paris Basket de se défaire de Strasbourg qui ça se battait pour la 9e place et c'est le Paris Basket qui remonte à la 9e place. Si on avait dit ça en début de saison, je pense que personne n'y aurait cru au vu des premiers résultats. Et non, ça prend de plus en plus le Paris Basket. Le problème, c'est que
ça va un peu mieux, j'ai l'impression. Quand on voit le classement, voilà.
Le problème, c'est que la moitié de leur effectif va partir soit en G-League, soit en NBA l'année prochaine. Donc ça va être soit dans des équipes un peu mieux classées. Donc ça va être très compliqué. Je suis impatient de voir comment ils vont gérer cette petite crise qui va arriver. Mais pour le moment, c'est magnifique. Et puis, la semaine prochaine, ils affronteront l'ASVEL à l'Accor Arena. Donc, on espère une grosse performance du Paris Basket.
Tu seras, j'espère.
Ah bah, j'y serai. Ouais, j'ai déjà envoyé. Ouais, j'aurai mon accréditation. Je serai
impeccable.
Là-bas. Mais Paris Basket qui va de mieux en mieux. Et surtout, hier, on avait Dwayne Wade, la légende de la NBA, qui était présent à Paris, à Carpentier, dans le 13e arrondissement. Si on me l'avait dit, ça, il y a encore deux ans, je n'y aurais pas cru. Mais non, Paris Basket... C'est une équipe vraiment kiffante à avoir joué et à voir Axel Toupan qui, après avoir gagné en NBA avec les Bucks, dans un rôle de role player sorti de banc, le voir là s'amuser et devenir le capitaine, co-capitaine de cette équipe, c'est que du bonheur. Et on a une très très bonne saison avec Victor Wembanyama à Boulogne, Monaco qui est toujours sur un run incroyable de victoires et même en Euroleague qui est exceptionnel. Donc vraiment, le basket français se porte de mieux en mieux. D'accord.
Ok, donc Paris devrait finir en milieu de tableau.
Oui, à peu près. Je vois la 7e. Moi, j'avais dit la 7e place en début de saison, alors qu'ils étaient avant-dernier. J'avais dit 7e. Je ne sais pas pourquoi. Ils vont trouver le rythme. Il y a des joueurs qui vont à NBA l'année prochaine. Ils sont sûrs d'y être, mais il faut montrer, il faut prouver. Et c'est ce moment-là où tu développes ton jeu, où tu peux faire des erreurs, parce que ça reste quand même de la proie. Ce n'est pas la NBA, ce n'est pas le grand cirque américain. Donc oui, c'est moi 7e.
Alors, tu parlais de l'Arena Bercy. Bon, il y a un grand match jeudi. Alors, c'est vrai qu'on a contacté les organisateurs pour venir parler de ce match. Bon, voilà, comme c'est une franchise américaine. Que c'est du business, ils nous ont pas répondu, c'est dommage.
C'est dommage chez les Américains. Mais alors, sur le papier, il y a un an, c'était un match potable, dans le sens où les Bulls étaient très très bons, ils avaient joué les playoffs. Détroit avait du jeu, on a Kian Hayes, notre français national, et on avait Sekou Doumbouya qui était présent à Détroit. Là, Chicago, c'est plus compliqué cette saison, même si ça revient bien, et Détroit, c'est dernier de la Ligue, tout simplement. Mais pour le spectacle, pour le beau jeu, pour voir c'est quand même un autre niveau de jeu, les Français vont le revoir encore cette année, c'est un autre niveau
de jeu. Une rivalité historique.
Ouais, c'est ça, et c'est une rivalité historique entre deux... Ouais. Les Bad Boys de Détroit contre les Chicago de Michael Jordan. Donc là, ça va être très très beau.
Donc c'est jeudi, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir des billets, jeudi 20h, les Detroit Pistons contre Chicago.
Chicago Bulls. Voilà. Bon courage d'ailleurs d'avoir bravo à vous d'avoir eu une place, que le prix minimum était de 434 euros. Bravo à vous.
C'est pas normal.
Si vous avez gagné un concours, encore plus bravo à vous. C'est pas mal.
Je comprends qu'ils aient pas voulu venir.
La NBA, je suis très heureux qu'ils viennent en France parce qu'on a le deuxième match, que l'on avait eu Bucks contre les Chicago les Hornets de Michael Jordan. On sait que Michael Jordan a une place importante, que Tony Parker et tout ça, et que les Français, en plus, c'est pour ça que Détroit a sûrement été choisi, c'est parce qu'il y a Kian Hayes, il y avait Sekou Doumbouya qui était français aussi, qui était dans cette franchise l'année dernière. Et sinon, c'est kiffant de voir ça. Après, voilà, c'est.
Bon,
Pas un énorme match. Ouais.
Alors, il y aura une petite consolation quand même, c'est que mercredi, il y aura une inauguration d'une fresque murale en l'honneur justement des Pistons dans le 13e arrondissement au gymnase Bourneville. Ça sera mercredi à partir de 18h.
Il voilà. Y a beaucoup d'événements NBA en ce moment. On peut avoir, vous pouvez gagner sur le NBA ID un brunch avec Tony Parker. Je ne sais pas si vraiment tenter le coup, on ne sait jamais. Hein, manger des omelettes avec Tony Parker, pourquoi pas. Après, on a aussi au NBA Store Paris l'opportunité avec Tony René Turiev de poncer 1000 euros dans le NBA Store. Ils mettent plein d'activités, c'est un peu la folie américaine, mais ça fait du bien de voir qu'on se rapproche de plus en plus et qu'on en fait.
Mais ça sera une façon d'accompagner dans le 13e cet événement.
Il y a un terrain de basket
le jeudi soir.
Le plus vieux terrain de basket aussi, Playground à Paris, qui a été mis aux couleurs des Chicago Bulls. Il est magnifique, je vous conseille d'aller jouer un petit peu dessus, c'est sympa.
D'accord. Allez, un petit mot de volley aussi pour le Paris Volley, donc c'était la 16e journée qui a battu Nice 3-2, alors que Plessis-Robinson a été battu à Poitiers 3-2. C'est Tours qui est en tête, 39 points. Et puis le Paris Volley, il est comme le Paris Basket, il est en milieu de tableau, 7e avec 25 points, alors que le Plessis-Robinson est 13e donc, et avant-dernier avec 13 points.
C'est ça, Paris qui gagne 3-2, et alors qu'ils avaient perdu à la dernière journée face à Montpellier 3-2, donc le même score. Mmh. Et ils étaient en pleine bourre, et il y a eu ce moment face à Montpellier où ils se sont arrêtés. Ça, 3-2, c'était quand même un match très honorable. Ils n'ont pas pris 3-0, mais c'était très compliqué. On le voyait qu'il manquait encore ce petit truc. Comme en début de saison, ils étaient revenus sur les bases de début de saison, donc il fallait se relancer, il fallait confirmer et se relancer. Et c'est ce qu'ils ont fait face à Nice. Nice qui, ça joue quand même. Moi, j'étais niçois l'année dernière. Je peux vous dire que ça joue quand même pas mal. C'est sympa à regarder. Ça a quelque chose de fougueux dans le jeu. Et le Paris Volley Paris Basket, le Paris Volley se porte de mieux en mieux.
Paris Volley en milieu de tableau. Paris Basket en milieu de tableau. Le Paris FC en milieu de tableau. Même s'il y a un petit mieux pour.
Et le Paris Atlético.
Pour chacun.
Bref.
Ouais, eux, par contre,
c'est
un peu compliqué.
En dessous du tableau.
Voilà. Ça, mais bon, même s'il y a un petit mieux, ils jouent à peu près le milieu de tableau. Le basket et le volley, vous y allez de temps à autre, hein ? Oui.
Plus le basket que le volley, pour être très franc. Mais je vais voir des matchs du Paris Basket, qui est un super club. Parce qu'ils font.
On les connaît bien, on les suit.
Ils font des trucs très sympas.
Il y a une ambiance incroyable dans les tribunes. C'est vraiment. C'est autre chose que le foot. Et franchement, je recommande. Quand il y a une soirée d'Eurocup, c'est quelque chose.
Le Paris-Dakar, ça vous plaît, le Dakar ? Vous suivez ou pas ?
Pas trop.
Bon, c'est pas grave. Valentin, il est là pour nous faire le bilan de ce premier grand événement sportif de l'année 2023 qui s'est terminé, même si on a connu des retombées plus importantes médiatiquement sur le Paris-Dakar il y a très longtemps. C'était 3 semaines à l'époque. Aujourd'hui, c'est 15 jours. Mais c'était en Arabie Saoudite. Attiya et Bommel qui s'imposent pour la cinquième
victoire. Deuxième fois consécutive pour lui. Il conserve son titre. Sébastien Loeb finit deuxième malgré tout.
À 1h20 et 49 secondes.
Il a failli revenir. C'est
6 victoires consécutives.
C'est le premier pilote à faire ça de l'histoire au Paris-Dakar, parce que c'est vrai que malgré dès la première ou deuxième journée, je crois, il a un accident, il perd 1h50 et il revient petit à petit, il gratte du temps, mais en fait notre cher Nasser, le Qatari, il revient toujours. Il arrivait 5-6 minutes après Sébastien Loeb, donc ça sert à rien, ça valait pas le coup, mais Loeb s'est battu jusqu'au bout et c'était vraiment très intéressant et beaucoup se sont intéressés au Paris-Dakar alors que, à part la Formule 1...
Il y a eu beaucoup de casses et ça a été un des Dakar les plus compliqués, les plus difficiles depuis très longtemps. Beaucoup de favoris qui sont tombés.
Peu de médias en parlent, mais il y a même eu un décès, notamment Nasser Al-Attiyah qui a derrière une dune, un supporter qui se mettait juste derrière une dune, qui a eu la voiture en pleine face et il est mort dans l'hélicoptère en direction de l'hôpital des suites de ses blessures. Et peu de médias en parlent, mais il y a eu un décès sur ce Dakar, c'était très compliqué. On a vu d'ailleurs Carlos Sainz Senior, le père de Carlos Sainz Junior qui est en Formule 1, avoir beaucoup d'accidents, sa voiture qui se retourne, des blessures au dos.
Beaucoup de cas cette année.
Crevaisons, Sébastien Loeb a eu 5 à 6 crevaisons, c'est énorme. Mais c'est ce qui fait la beauté du Paris-Dakar, c'est qu'on ne sait jamais.
Ils ont réussi à le maintenir, c'était en Arabie Saoudite, ça dure maintenant 15 jours. Ils ont réussi à sauver cette épreuve, même si on n'est plus à l'époque où il y avait.
C'est quand même une grande compétition.
les stars ou les mêmes champions des autres sports qui venaient donc participer à cette épreuve. Alors par contre, ça a été aussi très disputé en moto. Benavides, l'Argentin, qui bat Price, l'Australien, il gagne avec 43 secondes d'avance.
Oui, bah c'est alors que 43 secondes d'avance, c'est ça aussi.
Ah mais les motos, c'est toujours très serré.
C'est très serré, mais c'est vrai que cette saison, elle commence très très bien pour les sports automobiles. Je suis impatient que la Formule 1 reprenne et que même le rallye reprenne très très bien. C'est vrai que là, avec le Paris-Dakar, on rentre vraiment dedans. Et même là, 43 secondes, c'est pour les spectateurs, c'est unique. Et pour ceux qui découvrent ça, ils découvrent un sport qui n'est pas... On pensait qu'il y avait des énormes temps.
Et en fait, non,
il y a une part d'aventure. Et c'est unique et c'est différent. Et puis même maintenant, avec les réseaux sociaux, le nombre de fois où je voyais des vidéos de Carlos Sainz, de Sébastien Loeb, et maintenant tout le monde en parle. Donc moi, je suis heureux pour le sport automobile. Ça se développe de plus en plus. Donc,
Et puis c'est Rallye Monte Carlo, tiens. Autre branche donc, cette semaine. On va rappeler quand même que Giroud a gagné en quad, que Van Kasteren, Rodendald, les Hollandais ont gagné en camion. Goscal et Mena ont gagné en SSV et Moreira Rural, les Espagnols, donc en classique. Voilà.
Bah oui, le rallye Monte Carlo que je vous conseille si vous avez l'occasion d'aller le voir aussi.
Ça, c'est mythique aussi.
Ah, c'est mythique. Monte Carlo, c'est mythique. Monaco, c'est mythique. La Côte d'Azur, c'est mythique. allez-y, il y a le soleil, il y a tout ce qu'il faut. Mais c'est une très très belle. Ça aussi, c'est une très belle compétition. Vraiment très sympa à regarder.
Ok. Merci Valentin. Rendez-vous donc la semaine prochaine.
Sans problème.
Il y a une grosse semaine de basket.
Oui, semaine de basket.
Ouais. Antoine, salut.
Merci beaucoup.
Tu vas nous suivre les matchs de foot. Il y a la Coupe de France cette semaine.
Oui, Coupe de France. Bah, voilà. On a hâte.
Et puis le reste de l'actu sportif. Il y a beaucoup d'événements qui commencent cette semaine. Il y a le hand actuellement avec le championnat du monde. Et puis, il y a le tennis.
Ils ont battu la Slovénie.
Qui va en quart, effectivement, comme le dit Antoine, ils ont battu la Slovénie. Ils vont en quart de finale.
D'accord, c'est pas une surprise. Hein.
Non, voilà. mais c'était poussif quand même.
C'était un match très, très serré. Ah bon, ils ont eu du mal. Bah, à la mi-temps, 14-16. Hein. Ils gagnaient 16-14, mais ils ont eu du mal. Et c'était sur des pertes de balles.
Tristan, en tout cas, merci d'être venu nous présenter votre sport sur Paris, vos différentes activités, puis d'avoir en quelque sorte commenté aussi avec nous l'actu sportive.
Merci pour l'invitation.
À très bientôt.
À très bientôt et bonne saison à tous les cyclistes parisiens et tous les sportifs parisiens. Voilà.
Très bien, merci. Merci à Jason d'avoir été une nouvelle fois brillamment aux manettes ce soir. Et puis on va finir, on vous laisse en musique, comme la tradition le veut. C'est Chemise, She Can't Love You, pour la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée à toutes et à tous. Et vive le sport plus que jamais. Bonne soirée.
I saw who you were with too. When I saw you last night, I could easily see she was holding you so tight, 'cause she knows you want me. Oh no, but she can't love you. She can't love you like I can. She can't love you.
She can't love ya, ooh no, she can't. chicken nugget. Who's fooling? Who's fooling? She. Said, you know you miss me, and you know I miss you too, baby. Well, you know I know I was wrong. What can I say? What am I supposed to do? I stepped out on you first, right? Right. I'm ready to make it up to you.